Et bienvenue dans Certains l'aiment au show, l'émission qui regarde des films pour patienter pendant qu'elle appelle le service client. Salut Thierry.
Salut Thomas.
Aujourd'hui, nous ne parlerons pas du Festival de Cannes, confinement oblige, mais nous resterons en France avec la plateforme OCS.
On avait l'intention d'aller à Cannes ?
Ben, on sait jamais. Là, ça ne doit pas coûter très cher. Là, on peut en profiter.
Là, voilà. On peut toujours prendre le train et y aller hein, et dire qu'on y est. Voilà. Bon.
Non, mais d'ailleurs, nous sommes à Cannes. Voilà, vous ne voyez pas. C'est un... Je vais reprendre le bruit de mouette et de plage qu'on avait fait.
C'est ça.
Voilà. Je vais le caler en fond.
Je t'en ferai une version 10 minutes.
Oh oui. Oh oui. Et on la revendra à un site de méditation. Tellement.
Et ça marcherait, putain.
Bruitdefond.com.
Nous ne sommes pas seuls, vous l'avez entendu. Elle, ça ne la dérange pas quand l'intrigue est téléphonée. C'est Yassa. Salut Yassa.
Hello.
Si vous lui proposez d'aller voir Fast and Furious ou une comédie française, il répondra aux abonnés absents. C'est Ellie. Salut Ellie.
Salut.
Et comme chaque semaine, maintenant, en confinement, nous recevons de merveilleux invités. Ici, c'est un duo de podcasteurs très productifs. Eux, leur chaîne de télé préférée, ce n'est pas OCS, mais c'est C++. Salut Bigaston et Budakin.
Bonsoir.
Je compte plus vos podcasts, on verra en promo à la fin. Enfin, il y en a une liste, ça n'en finit plus, j'ai pas réussi à les compter.
On aime bien se diversifier, on va dire ça comme ça.
Ça se diversifie, voilà. Mais c'est très porté technologie et codage, hein, n'est-ce pas?
Ouais.
Et jeux vidéo aussi.
Et jeux vidéo, oui. Ça tombe bien parce qu'il y a un film qui parle un peu... sécurité informatique, et je crois que vous êtes calé là-dedans. Hein.
Oh, plus Buda que moi, mais je connais les bases.
Buda, c'est un peu ton métier à côté.
Oui, bah, je suis administrateur système de métier, et bon, je compte me aller vers la sécurité informatique dans les prochains mois.
Donc tu seras l'homme de la situation. À l'heure où nous enregistrons, nous sommes en 8e semaine de confinement. On sort bientôt, ou presque. On pourra se balader avec des masques, mais comme il n'y en a pas, bah, on continuera à faire sans.
C'est ça.
Bah, sinon, vous achetez le casque collector du Doomguy ou vous prenez des masques à gaz, ça marche aussi.
C'est ça.
Ah ben moi c'est ce que je fais, hein, masque à gaz.
Ou des masques de Mickey, doit nous en rester pour de l'émission Disney masques... Plus, ça devrait le faire.
Ah, des masques de Nixon, ça serait trop bien.
Ah oui. Aujourd'hui, comme je disais, on parle d'OCS, plus précisément de sa plateforme OCS Go. OCS est un bouquet de chaînes de télévision française créé en 2018 par le groupe télécom Orange, qui d'ailleurs l'année précédente avait créé sa boîte de prod et donc qui s'investit dans le cinéma. C'est une plateforme, enfin maintenant une chaîne de bouquets détenue également en partie par Canal+. OCS a des accords d'exclusivité avec HBO, avec Sony Pictures et bien d'autres, donc ce qui assure une certaine qualité et une certaine fraîcheur dans leur sortie. Est-ce que vous-même vous êtes abonné, vous étiez abonné avant cette émission à OCS?
Alors pas du tout, personnellement pas du tout, parce que leur catalogue n'est pas intéressant, mais enfin n'est pas intéressant, ne m'intéresse pas, on va dire ça comme ça pour pas me faire insulter directement par les fans de Game of Thrones. Mais je squatte l'abonnement MyCanal de mon grand-père qui a la formule OCS, donc j'y ai accès grâce à ça.
Ouais, c'est vrai que la formule OCS, on la trouve en bundle d'à peu près tout ce qui se passe sur un écran, quoi. Les box, ouais. MyCanal, Amazon aussi propose OCS. Enfin, c'est un peu la folie. Il y en a partout. Même sur les consoles de jeux, j'ai vu, on peut avoir OCS.
Ah bah, pour faire face aux géants Netflix, il faut bien ça, hein. Faut se diversifier, hein.
On le présente souvent comme le concurrent local de Netflix. Mm-hmm. Buda ?
Alors pour le coup, OCS, bah, je l'ai justement via Amazon Prime, que je regarde justement via la console. Donc là, c'est le combo.
Yeah, combo.
Voilà, je l'avais pris pour les séries parce que niveau film, c'était pas forcément ce qui m'intéressait le plus. Mais niveau série, entre Watchmen, Tchernobyl, Game of Thrones, à l'époque où ça passait, j'avais de quoi faire.
Ellie ?
Moi, j'y étais abonné pendant un long moment. Et j'ai arrêté il y a quelques mois parce que, en gros, j'ai changé de carte bancaire et j'ai oublié de renouveler, enfin de changer l'abonnement, enfin de me remettre à jour. Mais j'aime beaucoup le catalogue, que ce soit en série, bah, avec les accords HBO notamment, mais surtout les films, parce qu'ils ont souvent un fonctionnement par rétrospective de réalisateurs ou thématiques. Et là, en ce moment, par exemple, c'est Lars von Trier. Enfin, je trouve ça assez fou. Enfin, c'est fou qu'il y ait une plateforme qui propose des films de Lars von Trier, presque toute sa filmographie. Avant, il y a eu Nanni Moretti. Enfin, il y a vraiment beaucoup de réalisateurs. Et il y a aussi une grande sélection classique qui est quand même assez, assez bien fournie et assez éclectique à ce niveau-là. Et moi, c'est, enfin, je trouve que c'est une très très bonne solution, pour découvrir des films et par faire sa culture un peu.
Oui, on parle beaucoup des films récents sur OCS, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de classiques également. Il y a ça, tu es touché aussi par l'apport du classique ?
Peut-être pas le classique, mais je m'étais abonné l'année dernière à OCS parce que Game of Thrones. J'avais démarré avec ça, puis j'avais gardé mon abonnement pendant 3 mois, il me semble. Puis je m'étais désabonné parce que voilà, j'avais d'autres trucs à payer. Mais franchement, j'avais passé un bon moment là-dessus. Ouais.
Ouais, c'est souvent Game of Thrones qui revient, les séries HBO qui reviennent comme motif d'abonnement. Hein, j'ai l'impression. Thierry, toi aussi ?
Alors non, Game of Thrones, moi je m'en bats méchamment les couilles, qui ne sont sûrement pas aussi dorées que celles de Bolloré. Maintenant que j'apprends que ça fait aussi partie de Canal+. Non, oui, clairement, moi c'était plus le catalogue de séries qui m'intéressait, enfin qui m'intéressait pas dans le sens où je me suis abonné parce que c'était pas du tout le cas, mais c'est vrai que ça a commencé franchement à me titiller après Netflix, parce que là je me suis dit qu'une fois que je ferais le tour vraiment des trucs qui m'intéressent dessus, et il y a plus grand chose, et de toute façon il y avait pas grand chose de base, que je m'intéresserais à ça parce que il y a HBO. Mais après le problème c'est que les séries HBO je les ai vues par plein d'autres moyens, donc du coup là quand je regarde, même s'il y a quand même des trucs qui me donnent envie, hein, comme même Watchmen ou quoi que ce soit, maintenant ça m'intéresse plus trop. Mais c'est vrai qu'il y a quelques temps j'aurais pris ça, ne serait-ce que parce que Vinyl, parce que The Night Of, parce que Tchernobyl, parce que ils ont aussi des séries classiques comme Six Feet Under, enfin, qui m'intéressent énormément, enfin, que j'aime beaucoup et que je serais ravi de revoir. Et aussi ouais, pour la sélection classique, parce que c'est clair qu'en termes de films récents ils ont pas grand chose, mais en termes de classiques, en effet ils font beaucoup tourner leurs classiques, comme le disait Ellie, par rétrospective, donc ça peut être intéressant. Voilà, mais c'est une plateforme où je m'y intéresse à peine, et je suis surpris et pas surpris du catalogue à la fois.
C'est chez eux Tchernobyl?
C'est chez eux, bah, c'est HBO. C'est HBO, ouais.
Ok, d'accord. Ok, bon, bah, j'irai peut-être regarder du coup.
Tu peux.
Non, mais il y a plein de trucs, hein. Tu vois, il y a Sharp Objects, ils ont True Detective aussi, ce qui est quand même, c'était quand même vachement bien. Mm. Ouais, ils ont quand même pas mal de trucs, vraiment cool.
D'accord.
La force de frappe HBO. Alors, quand HBO va faire sa propre plateforme, ils vont la faire aux États-Unis.
Ils vont baiser.
Ils
n'ont
encore rien indiqué pour la France. Ça va sentir le roussi.
Ouais.
Mais bon, on verra s'ils se mettent en France. Hulu n'a rien fait en France pour l'instant. Disney, pardon. Enfin bon, bref. Pour préciser le truc, tu parlais de Bolloré, Orange reste majoritaire. Hein.
Ouais, mais tu sais, il a toujours des petites actions un peu partout. C'était juste histoire de caler une petite vanne, hein, tu sais.
Ah ben, OCS, ça fait très très peur à Canal à sa sortie.
Ah, j'imagine, ouais. Donc maintenant qu'ils sont en partenariat, ça les arrange bien, quoi.
C'est comme Disney ouais. Plus aujourd'hui ou Netflix. Et là, il y a des offres bundle. Là, en ce moment, il y a une offre bundle où tu peux t'abonner à Canal, mais en même temps à OCS, à Disney, à Netflix. Ça veut rien dire.
Du coup, au final, la seule concurrence qu'ils ont désormais, c'est Amazon, quoi, en gros. Dans les grosses plateformes, quoi.
Ouais, si on peut dire, ouais.
Et Amazon, je serais curieux de voir les stats, mais voir le nombre de personnes qui s'abonnent à Amazon Prime pour avoir Prime Vidéo, ou les personnes qui s'abonnent à Amazon Prime et qui découvrent qu'ils ont Prime Vidéo.
Alors, je fais partie de la deuxième catégorie de personnes. J'avais Amazon Prime pendant un an, et c'est au bout d'un an, quand j'avais déménagé à Bordeaux, qu'on m'a fait « Ouais, mais t'es au courant que Prime Vidéo, tu l'as avec Prime ?» Ah bah tiens, je vais en profiter du coup.
Mais je crois que
pareil.
Je me suis senti très con.
Une partie de leur com en plus, Amazon Prime, on sait pas le sujet, mais une partie de leur com en plus, c'est pas vraiment, c'est pas venez vous abonner à Amazon Prime, c'est hey, les abonnés Prime, vous avez Prime Vidéo. De ouais, ce que je vois, c'est une partie de com, c'est vraiment, je pense qu'il y a eu vraiment un problème de communication dessus. Et,
C'était plus un gadget pendant un moment, puis là avec le confinement, on a l'impression qu'ils se renforcent, là, ils sont en train de racheter plein de films qui devaient sortir en salle. On parlait de Fort ou de Bloodshot, il y a Pinocchio cette semaine.
Aussi,
ouais, c'est balèze. Hein.
Autant Fort,
et
ils vont mettre du Varda. Ouais, alors ça va tellement quoi. Ça, Netflix annonce, on va mettre du
Denis
et du Truffaut. Et eux, on va prendre du Varda. Tu vois. Et en plus, on va dire comme ça que Netflix est sexiste.
Eh ben non, mais je trouve que c'est une bonne nouvelle.
Mais c'est très bien.
C'est très bien.
Ça permet d'avoir du patrimoine à tout le monde. C'est parfait. Mais c'est juste que c'est marrant parce que quand, au niveau du timing et de la temporalité, on sait qu'il y a quand même une petite volonté de concurrence.
Bah, surtout que tu mets la femme de Jacques Demy qui va juste sortir sur Netflix, quoi. C'est vraiment rivalité pour le coup, quoi.
Mais un truc drôle, c'est que quand même, ils sont concurrents. Mais d'un autre côté, t'as Netflix, Disney Plus qui utilisent les serveurs d'Amazon. Donc,
oui, parce que le pognon d'Amazon, ça vient. Alors, la vente en ligne, ça, c'est bien. bien, mais le, initialement, ça vient surtout de ça. Ça vient surtout de l'hébergeur, de l'hébergement.
Amazon Web Service.
Ouais, leurs services sont très, je veux dire, pour m'être renseigné un peu dessus, sont très qualitatifs et pas hors de prix. Donc, c'est pas déconnant que Netflix et Disney Plus se basent dessus plutôt que mettre en place eux-mêmes leur infrastructure.
On n'est pas là pour parler d'Amazon, on est là pour parler d'OCS.
Désolé, on a dévié.
Étrangement.
Donc, comme d'habitude, on a sélectionné trois films dans le catalogue OCS. Pour notre sélection, nous avons écarté les films du catalogue que nous avions déjà vus, dont nous avions déjà parlé dans l'émission, et ceux qui ont fait tourner Ellie de l'œil rien qu'à leur nom. Donc, nous ne parlerons pas, bouge-toi les oreilles Ellie, d'Ala 2, Kursk, Bécassine, Gaston Lagaffe, Men in Black International, Edmond, Le Flic de Belleville, Largué, Let's Dance, Escape Room, Escape Game, The Marines 6, Close Quarter, ou bien encore... Le chef-d'œuvre, qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu?
J'ai tellement honte de me dire que tu lui dis de se couper, enfin de se boucher les oreilles, alors que moi j'en ai déjà vu la plupart de ces films. J'ai honte.
Le film Gaston Lagaffe, j'en ai vu, pas trop mal. Hein.
J'en ai vu quelques-uns, et surtout moi je voulais voir Bécassine dans le lot, hein, faut pas l'oublier, hein, je suis le seul à avoir voté pour, je crois.
Tu es le seul, oui.
Non, mais ça pourrait être pire, parce que bon, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, quand en dire? Je cherche un moyen poli de le dire, en fait.
Cherche pas.
Gaston, c'est lequel que tu disais avoir vu?
Bah moi, j'ai vu Gaston Lagaffe. Mmh. Et j'ai vu Gaston Lagaffe que j'ai... Bah, c'est pas forcément un chef-d'œuvre, mais c'est pas mal. Et Edmond, que j'ai adoré. Bon, je crois qu'il est un peu détesté dans cette émission, donc je vais me faire des ennemis.
Non, t'inquiète, mais... je suis là, moi.
Yes!
J'aime ça, Edmond aussi. Et Gaston, c'est pas mal, ouais.
Ouais, bah, c'est pas forcément un chef-d'œuvre, mais bah, c'est dans la lignée
c'est
des
mignon.
Profs, quoi.
Faut pas que je le vois, quoi, si c'est dans la
non,
lignée
c'est
des profs.
Non, et puis même, je trouve c'est une bonne adaptation de BD. Non, pour moi c'est différent des profs, enfin ça respecte plutôt bien l'esprit de la BD, juste le problème oui. C'est que c'est une BD qui a pas de fil directeur et là tu sais de faire un film avec, donc c'est un peu le bordel, mais ça respecte plutôt bien l'ambiance, je trouve.
Comme disait le réal en interview, c'est impossible d'adapter un film et pourtant les producteurs ont mis du pognon pour, donc bon écoutez, on fait ce qu'on peut. Hein. D'ailleurs, pourquoi ces chefs-d'œuvre français sont sur la plateforme? Parce que Orange a un accord avec UGC.
Oui.
Et voilà. C'est le fait qu'ils ont la primeur de ces chefs-d'œuvre. Oui.
Par rapport à qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, ma copine a trouvé la réponse. C'est la bouteille de Jaeger qui a perdu. On a décidé de faire un jeu à boire. À chaque fois qu'il y avait une blague raciste, homophobe ou malaisante, on buvait un shot.
Attends, ah oui. tu fais des jeux à boire avec du Jägermeister?
Oui.
Laisse-moi deviner, t'écoutes du métal?
Oui.
Ah, je le savais. Non, mais on est les seuls à connaître.
Je suis plus rom à la base.
Ah, t'es un pirate.
Je crois qu'on dérive, voilà. On a passé 5 minutes à faire le sommaire, c'est bien.
Ça va.
Bien, non. La sélection, donc parmi tout ça, on exclut aussi les Spider-Man et Once Upon a Time in Hollywood qu'on avait vu. Donc notre sélection, on a choisi La saveur des ramen du réalisateur singapourien Eric Koh, Exfiltré, le film français de la sélection, même si La saveur des ramen, on peut discuter, enfin bon bref, Exfiltré avec Swan Harlow et Charles Berling, et nous finirons avec le choix de nos invités, le doc Citizen 4 sur et avec Edward Snowden. On commence tout de suite.
Uncle, why I never met grandmother?
Say.
Can you teach me how to cook bak tae? I always think about mama's cooking. I want to remember them every time I cook bak tae.
La saveur des ramen du réalisateur Eric Koh, un film MK2 d'ailleurs, j'ai vu au passage. L'histoire de Masato, un jeune chef de ramen au Japon, qui va partir en voyage à Singapour sur les traces de sa mère pour découvrir ses secrets familiaux et apprendre la recette du fameux bakute, qui est un peu le ramen singapourien, si on veut simplifier vite fait. Hein. C'est très très simplifié, c'est de la soupe de porc, c'est pas exactement pareil.
Alors je vous préviens, c'est un film qu'il faut regarder avant manger, parce que vous allez avoir la dalle. C'est
comme en mangeant. C'est mieux.
Ouais, un film qui vous a ouvert l'appétit, n'est-ce pas, Buda?
Ah bah, totalement. C'est... En même temps, c'est un film où la moitié du temps, on voit de la nourriture à l'écran.
Attends, on voit pas de la nourriture, on voit de la nourriture en gros plan et qui a l'air bonne.
Oui, voilà. Et moi qui adore les ramen en plus.
Et Super Size Me, on voit aussi de la nourriture H24, et pourtant ça donne pas faim.
Oui, bon. Mais là, contrairement à Super Size Me, c'est pas un documentaire sur un malbouffe, c'est un film, du coup, touchant sur Masato qui va à la recherche des origines de sa famille et où on voit beaucoup de cuisines singapouriennes ou japonaises. Et si vous êtes fan de ce genre de cuisine, bah, je vous préviens, vous allez vraiment avoir faim.
Mais c'est affreux. C'est un peu sur ce point-là parce que j'ai coupé et j'ai appelé mes colocs en leur disant les gars, faut qu'on bouffe maintenant. Après 1 minute 11.
on est d'accord, le départ,
le ramen, mais nickel au millimètre.
Ouais. Ah oui, non, mais rien que le début, il t'achève. C'est oh.
Ouais.
Et puis en plus, voilà, enfin, moi, j'imagine que vous aussi, parce que, bah, en tout cas, de ceux que je connais, c'est le cas, et Gaston Boudakin, je n'en doute pas. On aime tous la bouffe asiatique, on aime tous les ramen, quoi. Bordel, ça donne tellement envie d'en manger. Et on peut pas en ce moment.
Ah non mais alors pour le contexte du coup, je suis un peu à la bourre, j'ai regardé les serveurs des ramen il y a à peu près une heure. Je l'ai terminé il y a une heure.
Ah du coup tu pleures.
Non là ça va, à peu près ça va, j'ai réussi à me tenir. Mais par contre j'avais faim, mais comme j'ai la flemme de faire à manger, j'ai bouffé des céréales. Tu manges des lions face à un truc comme ça, t'es en mode ouais ma vie quand même c'est un peu... Ouais.
C'est de la merde.
À l'aide.
Donc en gros on pleure deux fois, on pleure à cause de l'histoire et à cause de ce qu'on a dans l'assiette, très bien.
C'est comme voilà. Bienvenue chez Chip. Hein.
Je vais me faire abattre. Ah bon, il t'a donné faim, bienvenue chez HT, toi?
Non, mais quand un étranger vient dans le schnorr, il braie deux fois.
Ouais, il y a des références dans l'émission. Il y a des lettres, il y a de la culture. Donc il y a un amour de la nourriture dans ce film, il y a des gros plans de malades, parce que là on a parlé beaucoup de l'émotion qui ressortait, mais parlons du film un peu. Je sais pas vous, j'avais l'impression d'un traitement presque télévisuel dans le traitement de l'image, j'avais l'impression de voir une émission de télé sans la voix off.
Totalement.
Masato va dans le restaurant, il croise le chef, et oh, on va cuisiner tel plat, on va cuisiner un bouillon, et en fait, donc ils sont là, parce que le jeu d'acteur est pas très présent, je sais pas ce que vous en avez pensé. Et ensuite, hop, on a la bouffe et on a des gros plans sur le plat, sur la préparation. Il y a cet amour-là qui bon, sont...
On a quand même des passages sur, justement, petites astuces pour faire de la cuisine japonaise aussi. Mm-hmm.
Mais après, j'avais l'impression que limite, la bouffe avait autant d'importance que les personnages, en fait. Dans le traitement, je serais curieux de voir le temps à l'image des personnages et des plans de bouffe, parce que je pense que ça s'approche du 50-50, où 50% oui. C'est des scènes de cuisine en gros plan, ou des scènes de gens qui mangent des trucs qui ont l'air beaucoup trop bons, et où tu désespères parce que t'as que de la putain de purée mousseline, et t'as de l'autre côté, t'as les scènes avec les personnages, en fait. Dans le traitement télévisuel, c'est vrai, c'est genre, tu te rajoutes une voix off, tu mets Pirates des Caraïbes dessus, c'est top chef, le truc.
Oui.
Ah ben c'est clair, si t'enlèves les scènes de bouffe, il doit y avoir un dialogue dans un escalier et le générique. Il y a
ouais,
encore.
C'est un court-métrage.
C'est quand même excessivement exagéré. Donc on va peut-être recadrer un peu là.
Non, sérieusement, quand même. Non, surtout qu'en plus, la nourriture a quand même un vrai intérêt narratif. Enfin, c'est le vecteur entre les personnages du film. C'est pour ça qu'elle est intéressante et qu'elle est aussi importamment, enfin, une manière importante mise en scène. Avec, bah, tous les gros plans et tout ce travail-là. Toutes les séquences de cuisine. Les paysages aussi, mine de rien, sont importants. Il y a beaucoup de plans larges pour montrer l'environnement où ça se passe. Parce que c'est quand même un film sur le retour aux sources, en quelque sorte. Et il essaie de vraiment apporter du contexte à ce qui se passe et à ses personnages. Après,
et
moi,
aussi
c'est...
pour, et aussi pour montrer le parallèle entre l'histoire des parents de Masato et l'histoire de Masato aujourd'hui.
Effectivement, c'est la nourriture comme un vecteur entre les hommes, enfin les humains en général. C'est parce que, oui, nous, on n'est pas trop sensible à ça, mais on va se souvenir un peu, Singapour a été occupé par les Japonais.
Donc, qu'est-ce qui n'a pas été occupé par les Japonais?
Qu'est-ce qui n'a pas été occupé par les Japonais pendant la guerre? Voilà, et que les Japonais, quand ils occupent, c'est pas des tendres. On va dire ça comme ça. Donc oui, il y a une vieille rancœur qui est restée ancrée, et la nourriture comme lien entre les hommes pour justement apaiser toute cette douleur et recréer ce lien entre les personnages, même au sein d'une même famille, pour réconcilier.
Mais après, c'est la bouffe, c'est un des trucs universels aussi. Quelles que soient les cultures, t'as toujours la bouffe qui lie les personnes. C'est pas pour rien qu'on fait des repas d'affaires ou que les présidents, quand ils se rencontrent, c'est autour d'un resto, quoi. Parce que la bouffe unit les gens. C'est si tu parles avec quelqu'un qui est repu et qui a bien mangé, il sera plus à même de t'écouter. Et je sais pas si on peut un peu spoil le film ou pas, mais la scène avec la grand-mère, de ce que je me souviens, c'est aussi de ce que je me souviens, c'était à une heure, mais c'est vraiment aussi ce passage-là. C'est vraiment, t'as la bouffe qui renoue les peuples et qui par la bouffe, tu t'apaises les gens et tu les calmes, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais
non, c'est clair, totalement. Bah, c'est vrai que tu parles de la grand-mère, donc du coup, ça fait parler aussi de du principe du film, qui est aussi de repartir sur les origines, et de Masato qui doit découvrir avant tout d'où il vient et quelle est l'histoire de sa famille, pourquoi est-ce qu'il a vécu avec sa mère et son père, mais que c'était éloigné du reste de sa famille. Et moi, c'est un peu là-dessus que ça m'a perdu, parce que pour toi, Thomas, tu disais qu'il y avait un traitement télévisuel. Je suis d'accord et à la fois pas tant. Et tu disais que ça, qu'il y avait peu de jeux d'acteurs. Ça, par contre, pour le coup, je suis pas du tout d'accord. C'est un jeu qui est très subtil, qui est très dans la retenue. Mais je trouve qu'il y en a beaucoup, justement, pour maintenir cette retenue qui fait qu'on est face à des personnages timides qui savent pas ce qu'ils vont découvrir, mais qui vont le découvrir quand même. Donc, il y a une forme de courage et à la fois d'apeurement de la part de ces personnes. Ça, je l'ai beaucoup ressenti. En fait, moi, ce qui m'a un petit peu perdu avant de comprendre là où ça allait venir, c'est que, on nous raconte en parallèle, en fait, les deux récits. Donc, le récit de Masato et le récit, du coup, de sa mère qui a dû s'éloigner de sa famille pour les raisons qu'on découvre après. Et en fait, pendant une bonne partie du film, je n'ai pas compris qu'il s'agissait de la mère de Masato, donc que c'était quelque chose qui se passait avant, qui était raconté par le biais de flashbacks. Je pensais en fait que c'était un film choral qui allait raconter des personnes, enfin qui allait raconter des personnes qui allaient se rencontrer à un moment donné, mais que ça se passait dans la même temporalité. Mmh. Et du coup, je pense que là-dessus, il y a un manque de clarté, en fait.
Ah, je trouve pas du tout. Hein.
Ouais, pareil, je trouve pas du tout parce que
moi, c'est le moment où j'ai envie de m'énerver.
Ah. Non, parce Ellie, que t'avais moi, dit que c'est celui qui t'énervait pas le plus.
Non, c'est Exfiltré qui m'énerve pas le plus. C'est lui qui m'énerve le plus, je pense, d'être au final.
Pardon.
Ah, Ellie, vas-y.
C'est pas tant qu'il m'énerve en soi, mais c'est que, en fait, je trouve que, bah, en fait, j'ai compris vite que c'est des flashbacks, mais je les trouve très très mal branlés, en fait. Parce que, bah, déjà, en fait, le mec fait des flashbacks, alors que le personnage n'a pas vécu la scène. Et ça, c'est un truc qui m'énerve au plus haut point. C'est-à-dire qu'en fait, le mec revit la relation de ses parents sans avoir pu la connaître. Et ça, mais ça me rend fou parce que c'est vraiment une insulte à la dramaturgie.
Bah ouais, c'est principalement pour ça que j'ai pas compris que c'était des flashbacks.
Et du coup, voilà. Ça, c'est que tu peux. Du coup, c'est très perturbant déjà là-dessus. Parce que soit tu comprends pas que c'est des flashbacks, soit tu comprends que c'est des flashbacks, mais enfin, moi, j'arrive pas à y croire. Ça me sort du film, en fait. Je me dis, mais il se fout de ma gueule. Et c'est un peu dommage parce que, à part ça, le film est quand même plutôt mignon et bien foutu. Et les histoires sont intéressantes. Ce que ça brasse comme thème, c'est très beau. Mais je trouve que les flashbacks sont déjà donc pas très bien agencés d'un point de vue de montage. Et aussi, en termes de mise en scène, je les trouve vraiment, ils auraient pu être beaucoup plus forts. Enfin, il y en a un qui me... Non, je me souviens, c'est celui avec la grand-mère qui est seule dans son salon et on entend quelqu'un taper à la porte. Et enfin, sa fille taper à la porte, elle veut pas lui ouvrir. Et je trouve ça être très très con qu'il y ait le contre-champ sur la personne. Enfin, déjà parce que bah, on peut pas voir la... Théoriquement, si on est vraiment dans le flashback, on peut pas être à côté de la personne qui n'est pas là. Donc on ne devrait pas pouvoir la voir, et en plus, juste rester avec la grand-mère à côté d'elle, et sentir le poids la tristesse qui l'accable de ne pas ouvrir, bah ça serait 10 fois plus fort émotionnellement, je pense. Et ces petites erreurs-là, je les retrouve un peu trop récurrentes, malheureusement, et ça... J'étais un peu déçu à ce niveau-là, alors que le film a du potentiel, vraiment.
Alors, je vais venir au renfort du film. Alors, on n'a pas tout capté, j'espère que ta bande va bien marcher. Je vais venir au secours du film. Alors, déjà, l'argument, c'est pas dans le book de comment on fait un film. Je suis pas trop d'accord avec, parce qu'il a tenté ça. Et puis, on pourrait dire que, là, on parle du personnage de la famille. C'est quelque chose dans l'histoire de la famille. Donc, ça pourrait faire partie de ça. Moi, je trouve que ça marche bien. Je te rejoins sur la mise en scène qui est pas au niveau. Moi, j'ai trouvé que ça faisait un peu émission télé, les passages avec Masato, et que ça faisait un peu romance à l'eau de rose pour un téléfilm, les passages avec les parents. C'est comme ça que je l'ai ressenti.
Après, c'est pas les passages qui m'ont le plus dérangé, je trouve. Moi, ce qui me dérangeait un peu plus, c'est ce que je trouvais un peu plus gênant, c'était les passages avec Masato et Mickey, je crois, ou un truc comme ça. Oui, qui sont importants à l'histoire, mais qui parfois s'éternisent un petit peu et te racontent un peu les trucs aux F, je trouve, parfois. Genre, j'ai pas trop d'exemples en tête, mais c'est un ressenti que j'ai et que, honnêtement, je trouve que vous taclez les flashbacks, mais personnellement, je trouve qu'ils sont assez importants, mais qui sont pas, c'est pas vraiment, je les vois pas vraiment comme des flashbacks, mais plutôt des choses pour le spectateur, mais pas pour le personnage. Pour moi, c'était pas du tout le personnage qui revivait ces scènes-là, parce que déjà, c'est pas possible, mais même au travers du bouquin, c'était pas possible qu'il les revive, mais c'était plus genre pour montrer aux spectateurs, pour remonter un peu sur l'idée de film choral dont tu parlais, où c'est vraiment deux histoires et tu vois le parallèle des histoires, en fait, ou le moment où tu disais le flashback où elle se fait où la mère veut pas lui ouvrir. Je trouve qu'il est assez important et que tu comprends qu'il peut comprendre ça au travers du bouquin ou un délire dans le genre, mais je sais pas, c'est pas le truc qui m'a le plus choqué, quoi.
Et puis on parle de l'émotion et de la nourriture, c'est vrai que là, dans cette histoire là la plus grosse source d'émotion, c'est cette histoire d'amour contrarié. Enfin, interdit. Si on nous laisse juste avec un bouquet en tête en pensant à cette image, enfin, moi, je suis content de l'avoir vu parce que c'est une source d'émotion en plus. Et à la fin, quand il y a de la nourriture et tout, j'ai tout ça qui remonte en même temps. Je suis d'autant plus impliqué que ces scènes-là m'impliquent aussi, même si je les trouve niveau téléfilm M6. Bon, eh ben, ça m'a quand même mis la petite larme. Donc, ça veut dire que c'est pas si fichu, si mal fichu que ça. Voilà.
Bah, En fait, mais je suis d'accord hein, sur le fait que c'est utile. Hein. Enfin, je dis pas qu'il faut les enlever les flashbacks, mais moi je trouve que dans le montage, ils sont vraiment très mal foutus parce que par exemple, souvent, ils vont suivre un gros plan ou un plan sur le visage de Masato comme si bah on rentrait un peu dans sa tête, ce genre de choses là. Et c'est, enfin, moi je trouve que là-dessus, il y a vraiment un problème de bah de clarté, comme disait Thierry, qui au final bah dessert leur impact à ces flashbacks. Et c'est dommage parce que oui, moi je dis pas qu'il faut les enlever. Hein, et je suis d'accord, ça renforce le côté des émotions et c'est intéressant de mettre en parallèle les deux histoires. Mais à mon avis, le montage aurait été à revoir, à changer un petit peu. Enfin, des fois, peut-être juste un plan près, tu vois, le recaler le flashback, je sais pas, mais pour que ce soit moins source de confusion. Parce que tu vois, quand Thierry se retrouve à dire qu'il comprend pas que c'est des flashbacks pendant la première moitié du film, s'il y a un problème, tu vois, enfin.
Thierry, as-tu dormi pendant ce film?
Oh, c'est une facilité. Non, je n'ai pas dormi devant ce film, j'avais faim. Alors peut-être que la faim a aveuglé mon jugement.
Non, moi j'avoue aussi, j'étais un peu troublé au début, je savais pas qui était le père, qui était l'oncle et de l'histoire de qui
bah,
on
moi,
parlait
c'est à partir
les
de l'oncle
flashbacks.
En fait. C'est à partir de l'oncle que j'ai capté et je m'étais dit putain, c'est l'oncle qui aurait dû raconter tout ça quoi.
J'arrive pas à comprendre que vous soyez aussi perdu en fait. Enfin pour moi c'était limpide.
Ouais, pareil.
J'ai eu aucun souci, c'est un film qui se sert de la nourriture pour véhiculer une nostalgie que le personnage a vécue, mais aussi une nostalgie qu'il n'a pas vécue. Ça vous est jamais arrivé d'être nostalgique période de quelque chose que vous n'avez jamais réellement vécu ou jamais réellement vu et du coup, c'est un petit peu comme ça que je l'ai pris.
Rien ne dit que la scène s'est réellement passée comme ça, c'est peut-être le fantasme du personnage.
Ça fait quand même très précis, je trouve, hein, dans la manière dont c'est décrit. Quoi. Après, oui, évidemment, bien sûr que rien ne nous dit que c'est pas fantasmé. Ouais.
Ouais. Du coup, j'ai eu absolument aucun souci à me laisser glisser sur cet océan de soupe de ramen. C'est un film avec de l'amour, de la nostalgie et de la bouffe, tout pour me rendre heureuse.
Après, ouais, je sais pas, je trouve qu'il était. Il était quand même beau le film et même la manière de filmer les flashbacks, je trouve qu'il y avait un espèce de. J'y connais rien en cinéma. Genre, je suis vraiment le pire invité à inviter. J'aime juste le cinéma parce que moi je dis, ouais, c'est beau, mais j'ai aucune capacité technique. Mais je trouve qu'il y avait quand même une différence entre la manière de filmer et les flashbacks et la manière de filmer le vrai film. Genre, il y avait un espèce de filtre bleuté dessus. Je sais pas si ça vous a. Pas choqué,
c'est pour trancher avec le souvenir.
Pour montrer qu'on n'est pas dans la même timeline, enfin que c'est pas la même réalité quoi.
Mais même quand Thomas dit que c'est filmé de manière télévisuelle, je dirais que c'est plutôt filmé de manière un petit peu plus documentaire et ça permet. Moi je l'ai senti comme permettant au spectateur de s'immerger un petit peu plus, de vraiment prendre part à cette histoire, tu vois.
Ouais. Bon, c'est pas tout ça, mais il va falloir s'exfiltrer.
Oh, elle est belle. La transition.
Oh, bon jeu de mots.
Ah, Sylvain, l'infirmier, sa femme s'est barrée en Turquie avec son fils. Ton fils est toujours là-bas? Il pourrait pas aider?
Elle a complètement pipoté. Maintenant, elle est là, quelque part avec son môme.
Est-ce que la nana lui a envoyé une photo entre-temps?
Une, mais bon...
Copie les coordonnées GPS dans Google. Ça dit quoi?
On l'a localisé. C'est vrai.
Bon, j'ai pas de bonnes nouvelles. On n'a pas de service actif en Syrie en ce moment. Il faut savoir une chose. Autant il y a des types qui sont partis là-bas, qui se rendent compte que la réalité n'est pas là à hauteur du prospectus, et ils rentrent. Les femmes, par contre, elles reviennent pas. Pas une seule.
Exfiltré, film de 2019 d'1h37 d'Emmanuel Hamon. C'est son premier long métrage fiction, entre guillemets. Avant, il a fait des documentaires. Il était aussi assistant pour Patrice Chéreau, Maurice Pialat ou Robert Altman.
Ah oui, ça va.
Petit CV. Avec à l'écran Swan Harlow, Finnegan Oldfield ou bien encore Charles Berling, l'histoire de jeunes activistes qui depuis Paris vont organiser l'exfiltration de Faustine et de son fils Noah qui sont partis en Syrie pour rejoindre la cause Daesh et qui se sont aperçus que finalement c'était pas si cool que ça, tu m'étonnes. A-t-il fallu vous exfiltrer de ce film ?
Oh, le résumé que tu viens de faire est pas non plus très vrai là. Hein.
Alors en gros, oui, pour être plus exact, on va suivre Swan Harlow qui est infirmier, qui va donc sa femme va partir sans le prévenir pour la Syrie. Il va remuer ciel et terre pour la retrouver et par ses contacts, notamment son patron Charles Berling qui est chirurgien VIP. Et le fils de ce chirurgien joué par Finnegan Oldfield qui est sur le terrain, qui est en Syrie pour des ONG, ils vont organiser une exfiltration de cette jeune femme.
Ah non, mais c'était pas là hein, que ça me faisait tiquer.
Oui.
C'est plus quand tu dis qu'elle rejoint la cause Daesh, pas du tout en fait.
Non, à la base, non.
Bah non, elle va rejoindre la Syrie parce qu'on lui dit juste viens nous aider à faire de la reconstruction, de la médecine. Elle se rend pas du tout compte qu'elle va dans un groupuscule terroriste. Parce que si on lui avait dit viens, on est Daesh, mais on est des gentils, elle y serait pas allée, tout le monde sait ce que c'est.
Oui. Mais non, voilà. C'est quand elle est arrivée qu'elle se rend compte, elle s'en rend pas compte dès le début même. Elle s'en rend compte au bout de, 20 bonnes minutes de film, je dirais.
Bah oui, parce qu'au début, en même temps, ils la mettent dans des maternités, elle l'aide vraiment, mais elle se rend compte qu'elle a pas de moyens, et c'est quand elle commence à s'en plaindre qu'elle se rend compte qu'il y a quand même pas mal de violence autour d'elle et que c'est pas logique.
Ouais.
Donc oui, elle rejoint pas du tout Daesh pour rejoindre Daesh, quoi.
Ouais, je pense que là, on vient de mettre le doigt sur ce qui est, selon moi, le plus gros défaut du film, c'est que ses motivations, enfin, ce qui la pousse à partir et à prendre son fils avec elle, c'est quelque chose qui n'est absolument pas clair du tout. C'est quelque chose qu'on arrive à reconstruire, enfin que moi je suis arrivée à reconstruire, disons vers la fin du film, en essayant plus ou moins de me rappeler du début du film. Mais franchement, j'étais à chaque fois pendant plusieurs fois pendant le film, j'étais là à me demander mais qu'est-ce qui l'a poussé à venir ici? Parce que quand on voit la réaction des personnages, donc de son mari, du médecin, du chef de service qui l'aide et des autres protagonistes, on a l'impression qu'elle a vraiment été que c'est un petit peu malgré elle, alors que c'est elle qui est partie au départ. Et en fait, je trouve que c'est mal expliqué. C'est vraiment mal amené. C'est pas clair.
Alors, la situation doit pas être claire en elle-même. Alors, c'est tiré d'une histoire vraie aussi, je l'ai pas précisé, mais c'est une histoire qui s'est réellement précisée. Et puis, pour revenir, elle part rejoindre une cause, elle part avec le gamin, elle part pas juste faire de l'humanitaire. Ouais. Quand tu pars avec ton gamin, voilà.
Je pense que moi, ce que j'avais compris, c'était un mix entre les deux, en fait. C'est que t'as d'un côté, elle partait rejoindre Daesh pour ses convictions, parce que d'après ce que j'ai compris, elle s'est quand même convertie.
Elle s'est convertie, ouais.
Elle s'est convertie, elle y croit quand même. Mais d'un autre côté, t'as aussi, du coup, t'as son frangin, je crois que c'est son frangin, qui lui dit viens nous aider, on a besoin d'aide au niveau santé et tout ça.
Je crois pas que ce soit son frangin,
c'est
mais
pas
je crois
son
qu'à un moment
frangin,
elle lui explique que c'était un gars de son quartier et que c'est des gens, enfin les deux mecs chez qui elle se retrouve, c'est des gens avec qui elle a grandi en fait, et c'est comme ça qu'ils ont réussi à la convaincre de venir en fait.
Mais en fait, moi ce que je voyais, c'est vraiment un truc entre les deux en fait. C'est
ça, j'avais pas compris.
Alors, conviction religieuse, oui, parce qu'elle s'est convertie, mais pour moi, elle y va pas pour les convictions de Daesh. Pareil, elle y va parce qu'on lui dit le pays maintenant est en proie à Daesh, viens nous aider justement à.
Non, j'ai pas compris ça du tout.
À faire, faire de l'humanitaire, quoi. Pour moi, elle y va pour aider, clairement.
Non.
Et c'est quand
elle
se rend compte qu'elle
est jeune convertie, comme beaucoup de jeunes convertis, il y a beaucoup de radicalisés aussi.
Mais c'est ça, mais en fait, moi, j'ai compris les trois à la fois. C'est ça le problème. C'est que, à la fois, elle y va pour aider, en Syrie. À la fois, elle y va parce que c'est Daesh. Et à la fois, elle y va parce que justement elle a envie de se sentir utile, vu qu'apparemment en France j'ai fait un petit tour du côté du dossier de presse, et en fait elle est décrite comme étant comme se percevant inutile ici en France, et c'est pour ça qu'elle part. Elle ne sent pas son utilité en tant qu'assistante sociale, donc franchement c'est assez brouillé dans ma tête niveau motivation.
Bah en tout cas, on peut voir que
j'avais compris
qu'elle
était
cette
femme,
c'est qu'il y a un souci, quoi.
Bon, moi je sais pas, moi je pensais qu'elle voulait faire des crêpes en fait. C'est
ça. Au début du film, déjà il a fallu que je le regarde trois fois parce que je comprenais rien. Je suis en mode pourquoi c'est lui qui l'a. Enfin, je comprenais vraiment rien au début du film. Et donc déjà le premier tiers, je l'ai regardé trois fois pour comprendre quelque chose. Et ensuite les deux autres tiers, pareil, je les ai regardés en plusieurs fois parce que j'y arrivais pas.
Alors je crois que le personnage de Swan Harlow n'a pas compris grand chose non plus au début du film.
Ouais, voilà, le pauvre, il s'en prend plein la gueule tout du long.
Il a juste compris qu'il était radin sur les prix de parking. Hein.
Bon, d'un autre côté, quand tu vois le salaire des infirmiers, tu te dis ouais, ça passe, c'est normal. Hein.
C'est vraiment le setup payant du film. Hein.
Ouais.
C'est genre une des premières répliques et la dernière, je crois. T'inquiète pas, j'ai pris la place la plus chère. Incroyable, ça me termine.
C'est peut-être pour ça qu'elle est partie. Donc, conseil en couple, si vous voulez pas que votre femme se barre, payez le parking le plus cher. Voilà.
Oh, bravo.
Non, mais du genre, je vais rejoindre Nadia. Ah, ok, 10 minutes après. Tiens, Nadia, t'es là, je t'en mode.
Bon, ok, on a compris. Le scénario est pas très très clair, très bien, mais cinématographiquement, qu'est-ce que vous en avez pensé ?
C'est pas affreux.
Ça va, ouais, en vrai. Hein.
J'ai pas aimé.
Bah, c'est c'est pas forcément un mauvais film en fait. Le problème que je lui vois, c'est qu'il y a bah, d'un côté toutes les incohérences qu'on a vues, mais il y a aussi le hasard, il est quand même beaucoup de son côté quoi. Parce que oh bah tiens, il croise Nadia au bout de 5 minutes. Oh bah tiens, en fait, son chef de service, bah, son fils, il est pile à l'endroit, pile à l'ONG qui peut l'aider. C'est.
Oui. Genre... Bah, c'est ça, c'est qu'on se retrouve avec beaucoup trop de situations qui sont téléphonées et ça devient trop gros pour être naturel.
Alors, c'est tiré d'une histoire vraie, donc le hasard fait parfois bien les choses.
Oui, c'est...
Non, mais surtout que le problème de ce genre de film-là, c'est que, bon, ça s'appelle Exfiltré, c'est tiré d'une histoire vraie, donc on se doute bien que ça va plutôt bien finir. Donc, ce qui est intéressant, c'est de connaître le processus, tout ça. Et là, ici, mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a presque jamais vraiment de problème. Enfin, tout se passe plutôt bien, on va dire. Enfin, il y a la situation qui est compliquée de base, mais une fois qu'ils commencent leur plan, mais alors ça coule tout seul. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les étoiles s'alignent, il y a des personnages qui pop au coin des rues qui viennent aider les gens, les contrôles, ils pourraient vraiment mais être... Enfin, ils peuvent passer des contrôles comme s'ils allaient à Carrefour, c'est incroyable.
Je suis pas complètement d'accord, il y a le coup du taxi, il y a les autorités françaises qui font pas grand-chose.
Le plan final, je parle. Non mais c'est tout, mais je veux dire, oui, je suis d'accord, il y a oui, le taxi et... au milieu du film, il y a beaucoup de péripéties où, pour le coup, ils sont contrecarrés. Mais une fois que le plan final, l'extraction, lancé, là, en 24 heures, là, un peu à l'arrache, et ils le font, bah, on va dire que tout se goupille vraiment très très bien et un peu miraculeusement sur certains aspects, on dirait.
Même un peu avant, j'ai envie de te dire. Enfin, c'est vrai qu'il y a plusieurs passages où à chaque fois, tu te dis quand même, c'est, enfin, si ça s'est passé comme ça, pourquoi pas, mais, putain, ils ont eu le cul bordé de nouilles, quoi. Parce que t'as le passage où elle dit qu'elle veut plus du tout faire partie de ce truc-là, ils l'enferment avec des nanas où ils lui disent clairement, tu la gardes à jamais. Le plan d'après, elle se barre. Je veux dire, elle parvient à s'enfuir juste après. Alors, il s'est peut-être passé du temps entre, mais ça se voit pas.
Ouais, je suis content de pas avoir eu les 3 jours de...
Bien sûr, mais c'est juste que ça te semble facile. Enfin, c'est juste, si tu veux, à la limite, on nous aurait fait une ellipse, on nous montre que c'est une ellipse et qu'elle en chie depuis un moment sans nous montrer en quoi, ça aurait peut-être été plus pertinent. Mais après, une fois de plus, si ça se trouve, elle s'est vraiment barrée 20 minutes après. Hein.
Et même le coup de la douane, genre, il y a un truc que j'ai toujours pas compris.
Ah, les checkpoints, c'est particulier aussi.
Non, c'est même pas le coup de la douane où il lui file son passeport. Bah, comment, s'il a pas de passeport, comment lui il fait pour rentrer?
Ça, c'est incroyable, hein, vraiment. En plus, il se ressemble pas tant que ça, franchement.
Enfin, en vrai, ça passe pas loin.
Regardez votre photo de passeport, est-ce qu'elle vous ressemble?
Non, mais c'est. Je pense qu'il a peut-être dû le déclarer perdu ou volé ou quelque chose comme ça. Et puis, il s'en est fait refaire un autre.
Non, mais pour lui, c'est pas compliqué. Mais c'est plus le. J'ai oublié son prénom au personnage.
Adnan.
Adnan. Qui passe. C'est vraiment. Mais. Il rentre quand même assez facilement. Enfin, après, bon, c'est sûr que oui, la ressemblance est un peu, enfin, c'est, il y a une marge d'erreur, on va dire, mais bon. On va dire que ça fait un élément de plus où tu te dis vraiment, tout cool, tranquille dans beaucoup d'aspects de
l'intrigue. Bah, tu sens qu'ils ont fait des fois des raccords grossiers pour réussir à faire avancer le film, en fait, parce qu'ils savaient peut-être pas forcément comment le rendre attractif narrativement. Mais je pense aussi à l'hôpital central où elle est censée s'enfuir avec des gens qui sont censés venir la rechercher. Et eux, en France, ils sont en communication avec ces mecs-là, qui lui disent quand même à un moment, c'est fini, on la trouve pas. On s'en va, ils lui disent pas on fait une dernière ronde et on se barre, non, ils lui disent là c'est bon on s'en va. Et là, ce qu'on voit dans la réalité, bah, c'est le moment où finalement quelqu'un se balade, enfin l'un des gars se balade dans une ruelle et la trouve. Alors donc du coup on a des informations contradictoires, donc c'est cool qu'elle ait été trouvée et qu'elle s'enfuit, mais c'est vrai que tu te dis bon, narrativement c'est pas toujours clair quoi.
Malgré ces défauts, je trouve que le film a quand même été haletant. J'ai été assez emportée par tout ce qui se passait en fait. Je me suis pas ennuyée.
Ouais, mais en fait je pense que ça c'est pour le coup c'est dû à la mise en scène qui est quand même assez documentaire, c'est beaucoup de caméra à épaule et c'est pas mal. Enfin, je trouve que pour le coup l'idée la manière de raconter l'histoire avec la caméra est assez intéressante. De ce point de vue-là, parce que c'est vrai que c'est assez immersif, et du coup, il y a pas mal de séquences qui sont vraiment prenantes, bah, tous les tentatives d'évasion, bah, celle du taxi, par exemple, elle est vraiment cool. Ouais. Elle rend très très bien, et on y croit.
Non, mais, il y a des
je suis
moments.
D'accord, le film a quand même des bonnes qualités là-dessus.
Ouais, il y a des moments qui m'ont fait rager, il y a des moments qui m'ont fait froid dans le dos de voir comment les femmes étaient traitées, enfin, et pour le coup, c'est vraiment pas un cliché, quoi, c'est vraiment comme ça qu'elles sont traitées.
Ah non,
quoi.
Ça pour le coup, clairement, ouais.
C'est aussi.
Quand elle va chercher le taxi. Ouais, excusez-moi, est-ce que vous pouvez m'amener là? Igo, ton tuteur.
Oui, c'est exactement ça. C'est horripilant, ce genre de comportement.
Et puis, il y a la parano ambiante, parce que tu sais pas si elle est vraiment en détresse ou si c'est un piège par Daesh par l'organisation pour voir qui c'est qui pourrait collaborer ou pour choper des mecs au passage.
C'est le genre de question qui se pose flippant. À un moment donné. Il lui demandait justement si sa femme avait l'air réellement en détresse ou pas pour savoir pour savoir si ça valait le coup de mener l'opération, quoi.
En fait, il y a plein d'infos sur les techniques, sur la situation géopolitique, sur les méthodes de chaque... Enfin, je trouve que c'est une mine d'infos, c'est très documenté.
Ouais. Bah, en fait, le truc, ce qui fait assez froid dans le dos aussi, je trouve, c'est l'inaction du gouvernement français, quoi. Genre, t'as l'idée du consul en Turquie, oui, ça c'est vrai. Et c'est vrai aussi qu'ils n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre, parce que la Syrie est un territoire où ils n'ont pas forcément de marge de manœuvre, quoi. Mais... Tu vois vraiment que t'as les gens, c'est ouais, bah nous on est la DGSI. Nous ce qu'on veut, c'est la sécurité intérieure, on s'en branle le sol extérieur. C'est vraiment, c'est au cas où elle revient, on s'occupe. Mais si elle est à l'extérieur, on s'en fout. Et c'est vraiment ça qui fait froid dans le dos. Et on remarque bien la détresse des personnes et du mari qui est dans le bureau de je ne sais pas qui du ministère où il est en mode bah quoi, on fait quoi? Bah ouais, mais la Turquie c'est cool. Mais elle fait comment pour aller en Turquie? Je trouve que cette détresse aussi, je trouve que l'acteur jouait bien la détresse. Je le connaissais pas du tout, mais je trouve que l'acteur joue assez bien la détresse. Et c'est assez intéressant.
En termes de jeu, c'est la grosse qualité du film. À part à la ligne Charles Berling, que je trouve toujours assez caricatural, les autres sont quand même très très justes, quoi.
Ah, j'ai trouvé bon aussi.
Un passage que j'avais bien aimé aussi, c'était justement toute la partie sur l'endoctrinement des enfants.
Ah ouais, pour des enfants soldats.
Bah, c'est flippant.
Déjà, quand ils font en sorte que le gamin tire sur les Playmobil avec l'AK-47, et même quand ils ont enfermé Faustine avec Noah dans un de leurs repères et que justement, Faustine voit tous les gamins devant une vidéo de propagande pour endoctriner les gosses.
Avec le gamin qui égorge un nounours là.
Non,
ouais.
Putain.
Ça m'a terminé.
C'était la séquence film d'horreur. Franchement, c'est.
Alors moi je sais pas, ça me fait marrer.
Ah ouais, non, moi franchement,
petit nounours.
Ça t'a rappelé tes jeux d'enfant.
Exactement. Moi ça m'amusait, mais voilà. Non, t'inquiète, j'ai rien à dire. Moi, j'ai juste que moi ça m'amusait parce que j'ai regardé ça cyniquement, je crois, mais.
Non, mais je trouve que ces moments-là faisaient assez froid dans le dos. Et on voyait bien la détresse de la mère de voir que son gosse se fait endoctriner, mais ne dit rien. Le truc que je remarque aussi, c'est que ce qui déclenche la fuite de la mère, c'est quand son gosse, en pleine détresse, débarque avec les Playmobil explosés. Et là où elle se rend compte, vraiment, je pense que c'est avant, elle avait. Et ça, c'est juste. Je me souviens plus, mais je crois que c'est juste après où elle décide de partir, où elle dit je veux rentrer aux autres, quoi. Je crois que c'est vraiment la détresse de son gosse, et on remarque que c'est vraiment universel. Ton gosse, il va pas bien. Bah aussi, je pense que beaucoup de personnes se mettent aussi à cette place-là, quoi. C'est ton gosse va pas bien, t'es pas bien. Et tu te dis ouais. et c'est à ce moment-là que tu pètes un câble, quoi.
Moi, je veux juste faire un big up à Charles Berling parce que la scène où il joue le supporter de foot devant la télé m'a fait exploser de rire.
Ah oui, pareil.
Il est tellement dans un surjeu absolu.
Non, attendez, les gars.
J'étais mort. Il dit n'importe quoi en plus, c'est terrible.
Les gars, je voudrais juste parler de ce film hyper sérieux, qui est génial, mais à un moment donné, il y a quand même Adnan qui débarque de la Syrie, qui arrive dans une soirée parisienne, et qui fait une blague sur les seins. Je ne dirai pas ce que c'est. Dis juste que ça parle de seins. franchement, ça m'a tué, ça m'a sorti du film, mais de la bonne manière, franchement.
Ouais, pareil.
Tu remarques que c'est un film français, quoi. S'il y a pas une petite blague.
Ouais, voilà.
S'il y a pas une petite blague de nichon, c'est pas un film français, hein, au bout d'un moment.
Moi, en vrai, pour revenir sur mon cynisme, et pour l'expliquer un peu, je pense que le moment où je suis parti en freestyle dans mon cerveau, c'est quand j'ai vu Issa, le terroriste qui accueille Faustine, et vraiment, je le trouvais absolument pas crédible. J'avais l'impression de voir Niska dans la pochette de l'album Commando, et ça m'a fait... Je me suis tapé une énorme barre, en fait, quand il est apparu, et à partir de là, c'était terrible.
Mais ça va, on le voit pas trop, donc je pense
que l'histoire de base, c'est pas le genre d'histoire qui me passionne, c'est pas en soi, je m'en fous un peu. Les films d'exfiltration m'intéressent pas spécialement par essence. Mais du coup, là, cet aspect-là, un peu comique... Pour moi, ça m'a fait vriller, je crois. Mais c'était bien, ouais.
Bon, on va moins rire là dans le prochain film. Face aux terroristes, il y a d'autres forces en présence, pas forcément bienveillantes non plus. Et on va voir ça tout de suite.
For now, know that every border you cross, every purchase you make, every call you dial, every cell phone tower you pass, friend you keep, site you visit, and the subject line you type is in the hands of a system whose reach is unlimited, but whose safeguards are not. In the end, if you publish the source material, I will likely be immediately implicated. I ask only that you ensure this information makes it home to the American public. Thank you, and be careful. Citizen 4.
Sorry, I don't know anything about you.
Okay,
I work for...
Sorry, I don't know your name.
Oh, sorry. My name is Edward Snowden. I go by Ed.
Citizen 4, documentaire de Laura Poitras, ou Poitras, doc HBO, de 2014, 1h48. En 2013, enfin alors même en 2012, ça a commencé, la réalisatrice Laura Poitras, ou Poitras, je ne sais pas, voilà, je ne sais pas, reçoit des messages cryptés d'un certain Citizen 4. Elle n'est pas la seule, puisque le journaliste Glenn Greenwald reçoit également ces messages. Va s'en suivre une conversation, des secrets de la NSA révélés, et cela va aboutir à une rencontre dans une chambre d'hôtel à Hong Kong avec l'informateur qui se cache derrière ce pseudo, un certain Edward Snowden, dont les révélations vont avoir un retentissement au niveau international sur l'espionnage massif opéré par la NSA.
Voilà, si vous avez entendu parler du programme Prism, du fait que Big Brother is watching you, tout ça, bah en fait, on le sait en très grande partie grâce à ce monsieur.
Bah disons qu'on s'en doutait, mais il a apporté les preuves, il a permis.
Voilà, il a apporté toutes les preuves.
On rappelle, Bigaston et Budakim, vous bossez dans l'informatique, la programmation, et toi, Buda, tu te spécialises dans la sécurité informatique, ouais. Donc c'est un sujet qui te parle.
Oui, bah forcément, par rapport à tout ça, tout ce qui va être sécurité informatique, sécurité des données, protection des données, bah, c'est quelque chose sur lequel je bosse énormément, même sur mon temps libre. Par exemple, le règlement général de la protection des données, dont vous avez sans doute entendu parler avec les 12 000 mails que vous avez reçus. J'avais fait une conférence dessus à la journée des anciens étudiants de mon IUT. Justement, par rapport à tout ça, tout simplement parce que, oui, les gouvernements nous espionnent, les entreprises nous espionnent aussi. C'est pas pour rien qu'on a un contrat de licence d'utilisateur final long comme un bras quand on veut utiliser Google ou Facebook, même si personne ne les lit et va forcément cliquer sur accepter. Mais niveau politique de confidentialité aussi, c'est connu et reconnu aujourd'hui. Ils revendent nos données et en fait, le documentaire Citizen 4 montre vraiment comment ça s'est passé en interne entre Laura Poitras, Glenn Greenwald et Edward Snowden au moment où toutes ces révélations ont été faites. Il y a déjà 7 ans.
Et peut-être même qu'ils écoutent ce podcast.
Voilà. Si ça se trouve, le gouvernement écoute ce podcast et d'ici une semaine, ils vont frapper à ma porte.
Est-ce qu'ils rigolent devant nos blagues?
Ah bah je l'espère bien.
Ça dépend. Tant qu'on vole les terroristes, ça va.
Voilà, mais tout. Alors à la base, c'était en partie lié au Patriot Act suite aux attentats du 11 septembre 2001, comme il l'explique justement dans Citizen 4. Mais ensuite, ils l'ont étendu à tout le monde, tout simplement. Parce que c'est, oui, c'est tous ceux qui sont liés à cette personne, on va les mettre sur écoute. Mais tous ceux qui sont liés à la personne qu'on a mis sur écoute, ben on va aussi mettre sur écoute. Et en fait, si on suit cette logique, ben on se retrouve très rapidement à écouter la Terre entière.
Ça pose aussi la question des lanceurs d'alerte, comme Edward Snowden, et le traitement des lanceurs d'alerte, parce que là, on va suivre un peu le documentaire, le cheminement, on va présenter un peu la situation de la NSA, on va parler des données, des métadonnées, de ce qui est suivi et observé. On va interviewer donc le gros du doc, c'est filmé dans la chambre d'hôtel. On a la caméra qui filme donc le journaliste Glenn Greenwald qui et même des collègues à lui, des confrères qui sont tenus dans la confidence et qui interviewent Edward Snowden pendant une semaine jusqu'à la révélation de l'identité et le tsunami que ça déclenche. On voit l'hôtel pris d'assaut. Littéralement, par les journalistes sur place et même plus. Et le téléphone qui explose dès la révélation pour essayer de le contacter. Et même, on va perdre contact parce que la documentaliste la réalisatrice, va perdre contact avec Edward Snowden dès qu'il va rentrer se réfugier à l'ONU parce qu'elle s'aperçoit qu'elle est suivie, qu'elle peut plus agir librement.
Oui, parce que tout simplement, le gouvernement américain est connu pour être assez tatillon, on va dire, pour être poli, par rapport à tout ça, justement, dès qu'ils craignent que leur précieux secret pour pouvoir espionner, et c'est pour ça que les lanceurs d'alerte, aujourd'hui, ont vraiment énormément de problèmes, encore, et à travers le monde, principalement à cause des Américains, et pareil, de nombreux pays disent qu'ils veulent protéger les lanceurs d'alerte. Il y a quelques années, en France, François Hollande nous disait qu'il était pour la protection des lanceurs d'alerte, pourtant la France a refusé le droit d'asile à Edward Snowden, qui aujourd'hui, qui maintenant, depuis plusieurs années, vit en Russie avec sa compagne qui l'a rejoint.
Et la France a un mauvais régime de protection des lanceurs d'alerte, en plus.
Voilà, la France a clairement un mauvais régime de protection des lanceurs d'alerte.
On a un texte, mais il est dégueulasse, hein, vraiment, il est trop mal écrit, et il est plus nocif pour les lanceurs d'alerte que protecteur, au final. Enfin, il encourage aucunement à devenir lanceur d'alerte, en fait.
C'est aussi ce qui arrive à Julian Assange, qui durant les événements où se déroule Citizen 4, était dans l'ambassade de l'Équateur. Mais justement, aujourd'hui, je crois, son procès, je sais plus s'il est en cours ou s'il est terminé, mais Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, pour ceux qui ne le savent pas, est justement dans la même situation qu'Edward Snowden. Mmh. Depuis beaucoup plus longtemps, il est accusé d'espionnage par le Royaume-Uni et les États-Unis d'Amérique. Et je sais pas combien d'autres pays. Enfin, les lanceurs. Et justement, Citizen 4, ça permet aussi de se rendre compte déjà que les gouvernements sont pas forcément nos amis ou nos protecteurs.
Bon, tu crois ?
Et que tout simplement aussi, être lanceur d'alerte, c'est bien si vous voulez aider tout ça. Honnêtement, c'est cool, mais le problème de tout ça, c'est que être lanceur d'alerte, c'est aussi quelque chose de très dangereux, parce que justement, le fait d'être lanceur d'alerte, vous mettez votre vie et celle de vos proches en danger, parce que les gouvernements ou les entreprises vont à tout prix vouloir vous arrêter, vous foutre en taule.
Ouais, de très grosses retombées.
Voilà, vraiment de très grosses retombées, c'est le genre de truc, quand on s'y met, c'est quasiment impossible de revenir en arrière.
Mais c'est même la manière dont on va essayer aussi de ternir ton image pour jouer sur l'opinion publique. Alors Snowden, encore, ils n'ont pas immensément joué à ça, parce qu'il y a eu le cas Assange juste avant. Mais c'est vrai que Assange, même si, bon, si ça se trouve, les accusations qui sont envers lui sont fondées, on ne sait pas. Mais lui, il a eu aussi, tout à coup, comme ça, qui débarque de nulle part, des accusations d'abus sexuels, et qui étaient aussi destinées à ternir son image, parce qu'à partir de là, on n'a pas juste dit, il a ces accusations-là, on va faire son procès, mais les porte-parole, en tout cas, des personnes qui voulaient l'accuser, enfin, qui l'ont accusé d'espionnage derrière, ont joué sur le côté, est-ce que vous voulez vraiment croire à un mec qui a aussi fait tout ça à toutes ces femmes, alors que qu'il ait fait ça ou pas, c'est horrible, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'il a dénoncé.
Oui. Ouais, voilà, c'est justement pour tenter de le discréditer un maximum et de dire non, en fait, c'est nous les gentils.
Et même après, pour revenir au film, je trouve que le format documentaire est super intéressant, parce que c'est vraiment ça qui me fait encore réfléchir sur le film actuellement. C'est que c'est pas genre un film inspiré de faits réels comme on a pu voir avec Exfiltré, c'est que c'est vraiment le réel.
On est plongé en plein dedans, ouais.
C'est ça, on est vraiment dans la partie. Et ça m'a rappelé un film que j'ai aussi beaucoup aimé avec Tom Hanks sur les Panama Papers. Non, pas les Panama Papers. Avant Nixon, première affaire.
Pentagon Papers.
Voilà, c'est ça.
Pentagon. Ouais.
Qui était vachement bien et ça m'a énormément rappelé ce truc-là. Sauf que là, c'était du coup romancé, mais là, on est vraiment. Et ce qui m'a vraiment choqué, c'est. Enfin, choqué. Ce qui m'a vraiment fait réfléchir, c'est que c'est vraiment. T'es dans le truc. C'est. Tu vois. Le mec qui joue Snowden, c'est pas le mec qui joue Snowden, c'est Snowden. Les journalistes, c'est pas des acteurs, c'est les journalistes en question. Et c'est suffisamment bien filmé et bien fichu pour que tu vois vraiment les motivations de Snowden. Tu vois que lui, il s'en fout. Son histoire de dévoiler son identité, c'est vraiment quelque chose qui est important pour les journalistes parce que ça permet d'apporter du crédible aux histoires. Mais d'un autre côté, ça fait aussi... mais lui, il s'en fout. Lui, ce qu'il veut, c'est juste les papiers. Et tu remarques que c'est vraiment quelque chose qui compte énormément pour lui. Parce qu'à chaque fois, t'as les journalistes qui font « Et vous, parlons de vous !» Lui, il est en mode « Non, je veux pas. Genre, il faut pas qu'on parle de moi. » Parce que c'est pas moins l'important, c'est vraiment les documents. Et même les sécurités qu'il prend, on voit dans le film qu'il débranche les téléphones, qu'il demande aux gens de sortir les téléphones, de les mettre dans le frigo,
Il se met une petite couverture quand il tape sur l'ordinateur.
Voilà, c'est ça. C'est le genre de truc, et tu te dis, c'est le côté, c'est un film documentaire en temps réel et ultra important, parce que tu te dis pas, ouais, non, mais franchement, ils exagèrent, ça s'est pas passé comme ça.
Mais le documentaire est tellement immersif que lorsque les alarmes incendies se sont mises à sonner, j'ai flippé. Je me suis dit, c'est un piège. Je commençais vraiment à imaginer plein de scénarios. J'étais tellement dedans que, et aussi, on les voyait flipper. Ils se disaient, est-ce que c'est un exercice ou est-ce que c'est fait exprès? Est-ce qu'on est obligé de sortir, de se retrouver dans le lobby, etc. T'es avec eux, t'es là, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est un piège ou pas? Mais on est à fond dedans.
Je pense que c'est aussi la force de ce film. Donc, vous remarquerez que je l'ai beaucoup aimé. C'est aussi la force de ce film, je trouve, c'est le format documentaire en temps réel. C'est vraiment une des plus grandes forces que tu sois vraiment... Tu sens que la réalisatrice l'a fait en temps réel. T'as le montage qui a été fait après, mais tu le sens que les images, c'est du temps réel parce qu'elle se filme en train de faire machin, elle raconte qu'elle vient de recevoir les messages, après c'est en temps réel à Hong Kong. Je trouve que c'est vraiment une des grandes forces de ce film, et aussi c'est pour ça que tu flippes, parce que tu te dis pas c'est un film inspiré de faits réels, ou c'est comme sur Exfiltré, avant on disait... ils ont eu franchement du cul de la porte ouverte, le mec machin, bidule en Syrie. Là, tu peux pas te dire ça, parce que c'est vrai.
Ouais. Il y a une dilution du temps qui fait que au début, ça commence par une narration tout à fait classique. À la fin, on a un petit peu la résolution de l'affaire, etc. Et puis entre les deux, en fait, c'est juste du direct pratiquement. On est en direct, on est en plein dedans. Et puis ce qui est bien, c'est qu'il y a pas, on montre pas uniquement Edward Snowden, c'est qu'on va montrer les journalistes, on va montrer les rédactions qui sont en train de flipper, qui sont en train de choisir les documents à publier parce que sinon ils vont se prendre des procès, etc. Il y a tellement de choses à prendre en compte. On commence à découvrir qu'il y a d'autres pays, des dirigeants d'autres pays qui ont été mis sur écoute, etc. Enfin, il y a énormément de choses qui se passent et c'est divulgué au fur et à mesure, mais toujours dans une temporalité linéaire qui fait qu'on a l'impression de la vivre de bout en bout avec les protagonistes, quoi.
Un exemple, c'est vrai que tu cites les journalistes qui flippent. On voit la rédaction du Guardian qui flippe parce qu'ils doivent balancer un article sur Tempora, qui est le logiciel d'espionnage anglais, fait britannique. Donc les mecs flippent. Est-ce qu'on en révèle jusqu'où on peut en révéler pour pas que les mecs débarquent demain et saisissent tout?
Ouais, parce que justement, c'est quelque chose dont ils parlent tout au long. C'est, voilà, je vous passe tout. Je préfère que vous choisissiez ce qui va être révélé ou pas, justement, par rapport à votre sécurité et si vous pensez que ça peut vraiment servir l'intérêt public ou pas. Moi, je suis juste le fournisseur.
Mais c'est ça, c'est aussi l'idée de c'est aussi, vous parlez des journalistes qui flippent, ça me rappelle énormément le film, du coup, Pentagon Papers, où tu vois que les journalistes se disent, il faut que ça sorte, parce que d'un côté, c'est cool, ça fait de la thune pour les rédactions, mais de l'autre côté, enfin, ça, plus la vérité, je néglige pas le travail des journalistes, loin de là, je me permettrai pas, mais tu vois vraiment que les journalistes, ils se disent, il faut que ça sorte, mais jusqu'où on peut prendre le risque? Jusqu'où on peut marcher sur le bord de la falaise pour pas tomber dans le précipice et tout perdre. Et c'est vraiment ça qui est ultra impressionnant. Et l'histoire de Snowden, où tu vois que lui, il est juste en mode, j'ai tous ces documents, je sais que politiquement, j'ai un avis fermé sur certains trucs, c'est pas à moi, et je trouve que c'est très, il a beaucoup d'humilité sur ce côté-là, où c'est pas à moi de faire le choix, c'est à des journalistes qui ont fait des études et qui connaissent les choses, de faire les choses.
C'est surtout très intelligent, parce qu'en fait, en se retirant, il redonne toute crédibilité au papier, justement, qu'il veut faire publier, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de mainmise, il n'y a pas de point de vue qui est appliqué sur les documents, et c'est juste, voilà, ce sont des faits bruts, voilà ce qui se passe.
Et en plus, les rédactions qu'il a choisies, c'est pas des mauvaises rédactions. C'est vraiment, c'est le Washington Post, t'as le New York Times aussi, t'as The Guardian.
Ils ont une crédibilité.
Le Guardian.
Et après, en France, ils ont les journalistes, Glyn, je sais plus son
c'était
prénom.
C'était Le Monde,
je crois. Ouais, il a bossé avec Le Monde, qui ont bossé sur les renseignements français. Donc c'est pas des petits journalistes, c'est pas des petits journaux, des petits journalistes. Et en plus, les journalistes à qui il fait appel, c'est des journalistes compétents qui sont compétents et où il fait appel parce qu'il sait qu'ils ont une certaine déontologie.
Mais ça se sans les connaître, je les connaissais pas en voyant le documentaire, mais sans les connaître, ça se ressent énormément juste à la manière dont ils appréhendent le cas, aux questions qu'ils posent. On sent qu'ils ont l'habitude de faire des investigations. Donc oui, ça se ressent totalement à travers le documentaire.
Et Glyn m'inspire énormément de sympathie pour ça aussi. Le coup du ouais, pour cette fois-ci, j'ai mis un mot de passe plus court parce que voilà, tu vois la flip dans les yeux de Snowden. En mode, mec, toi, ta vie, tu joues avec le feu.
Non, mais là, c'est même pas jouer avec le feu à ce niveau-là, c'est jeter de l'essence dessus.
mais après, même la manière dont c'est filmé, je trouve que ce qui est bien, c'est qu'elle a pas la manière dont elle le filme. J'ai pas vu ses autres films, on va pas se mentir, mais la manière dont elle le filme, elle essaye pas de le faire en tant que film. Tu vois que la caméra, parfois, elle tremble. Elle est cadrée à la zob, mais tu sens que c'est vraiment... tiens, il parlait d'un truc, j'allume ma caméra, je parle.
Ouais.
Voilà, c'est pas...
Oui, mais en fait, on a l'impression que la caméra, c'est une autre personne de la pièce, quoi, tout simplement.
Oui,
c'est ça. En plus, on voit jamais Laura, on la voit pas une seule fois, on sent vraiment que c'est la caméra, c'est Laura.
Mm. Oui.
Et c'est ça, je trouve aussi, l'énorme force de ce film.
D'ailleurs, par rapport à toute l'affaire Citizen 4, Edward Snowden, depuis, il a publié son autobiographie fin 2019, Mémoire vive, dont la version chinoise a été censurée.
Sans déconner.
Et le gouvernement américain lui a fait un procès.
Ils ont saisi les recettes ?
Ouais, pour saisir l'intégralité des recettes du livre. Et pour dire, ouais non, tu divulgues des secrets d'État, tu fermes ta gueule.
Ils sont pas à un procès prêt, donc...
Ouais, voilà, c'est ça. Mais je pense que ça peut être une excellente extension du film Citizen 4 par rapport à tout ça. Et,
oui, l'histoire n'est pas terminée.
C'est ça, l'histoire n'est clairement pas terminée. Et tant que les lanceurs d'alerte risqueront autant leur vie en voulant protéger les intérêts publics et tant que les grands décideurs, on va dire, chercheront toujours à nous enfiler nous espionner. Enfin, concrètement, c'est pas prêt de se terminer. 1984 de George Orwell, c'était censé être une fiction, pas un mode d'emploi pour créer le monde d'aujourd'hui.
Et le truc qui est aussi assez intéressant, je trouve, c'est que ça te pose des questions sur tout le système judiciaire américain, où tu vois qu'il y a que même les avocats de Snowden, ils le disent, ils vont essayer de nous sortir une loi obscure de 1800 machin qui dit que c'est une loi de 1900, l'espionnage act, où en gros tu dis, et même Snowden le dit, c'est pour ça que je veux pas me faire juger maintenant, c'est que il veut un jugement à preuve et à témoin ouvert. Pour pas qu'ils puissent mal gâcher sur faire une technique de sioux et genre même les avocats le disent, avec cet espionnage act, c'est inutile qu'on y aille parce que ce truc-là, il n'y a pas de défense possible.
Ouais.
Ils disent surtout que le procès ça serait 95% de politique et 5% de juridique. Mm. Donc c'est surtout ça qu'ils disent les
avocats. Mais même aujourd'hui, c'est encore le cas, comme avec l'affaire Julian Assange. Là actuellement, je suis allé jeter un œil, son extradition vers les États-Unis, c'est toujours en cours de procès pour le faire extrader vers les États-Unis, mais concrètement, c'est un procès purement politique contre les lanceurs d'alerte et contre les actions de tous ceux qui ont participé à WikiLeaks, comme aussi Snowden.
Et c'est même
Par contre, vas-y. Non, j'allais juste dire un truc débile, mais je me disais, les Américains, ils doivent vachement avoir les boules qu'ils soient en Russie, quoi.
Mais totalement. Par contre, ça, c'est avéré. Ils ont les boules qu'ils soient en Russie parce que justement, Poutine, c'est un moyen de faire chier les Américains.
C'est un gros fuck you, quoi, dans la gueule.
Mais c'est là-dessus que je voulais rebondir. Merci pour la transition. C'est que aussi, on remarque, en parlant de politique, on remarque énormément l'importance de Snowden dans le milieu politique. C'est que vous parlez de c'est un moyen de faire chier les Américains, mais moi je veux aussi un moyen d'amadouer les Américains. Genre, ils le gardent chez eux, ça fait chier les Américains, mais s'ils veulent obtenir quelque chose des Américains, c'est une monnaie d'échange. C'est une monnaie d'échange de ouf.
Ça va dans les deux sens, malheureusement.
Imaginons que t'as les Américains qui commencent à leur casser les couilles sur je ne sais quoi, t'as la Russie qui peut faire « Ouais, vous vous calmez, et on vous file Snowden. »
Alors, on n'est pas chez Pascal Praud, on va éviter de faire de la géopolitique.
Ouais, pardon. Mais juste pour revenir au film, je trouve que ça montre aussi énormément l'importance de la politique et de la politique américano-russe là-dessus. Et ça remarque aussi l'inaction de la France et de l'Allemagne qui, quand ils se sont rendus compte que Snowden était peut-être dans un avion pour aller Équateur ou Venezuela, je crois, ils ont fermé leur espace aérien.
Ouais.
Genre, c'est tu passes pas au-dessus, on veut pas avoir d'emmerde. Et c'est vraiment c'est la technique de la Suisse, quoi. C'est non, tu passes pas chez nous. On veut pas être mêlé à ça, démerde-toi.
C'est un sujet très très sensible diplomatiquement.
C'est sûr.
Ouais. Thierry, Ellie, on vous a pas trop entendu sur le film, je crois, ou alors au début juste.
Non, pas énormément, c'est vrai, mais en même temps, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et je suis moins expert sur le sujet, donc c'était hyper intéressant de vous écouter. Moi, ça fait du coup deux fois que je me documente sur Snowden indirectement. La première fois, c'était en voyant justement Snowden, on en parlait tout à l'heure, Budakin, de Monsieur Oliver Stone.
Dispo sur la plateforme OCS.
Ça peut être un bon complément, même si bon, il y a quand même un côté excessivement romancé. En même temps, c'est une œuvre de fiction, donc forcément, on va édulcorer, et c'est un côté moins frontal que le documentaire, donc ça permet peut-être une porte d'entrée aussi, qui, si elle rend curieuse, peut mener au documentaire. Et pour une fois, n'avait pas le côté totalement brouillon et gueulard d'Oliver Stone qui passe juste sa vie à chialer, et là, pour une fois, il était dans la retenue et il a réussi à faire un truc complet. Bref, le sujet est passionnant et c'est flippant à la fois. C'est surtout ça, moi, que je retiens, c'est que c'est des choses dont on n'a pas conscience et on a tous tendance, enfin, moi le premier, il y a longtemps, à toujours se dire, c'est un peu comme quand t'avais des gens qui passaient leur temps à dire que la politique de Facebook allait changer, qu'ils allaient bientôt voler les données, alors qu'ils le font déjà.
Oui, voilà.
Et que tout le monde disait, bon, en même temps, je mets juste mes vacances à la plage et je parle juste à mes potes de ce que j'ai bouffé, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre, je suis pas concerné. Et c'est en pensant comme ça, malheureusement, en fait, que les mecs prennent une marge de manœuvre encore plus grande. Voilà. Après, pour parler du docu, le docu, je l'ai trouvé bon, j'ai pas non plus énormément de vision objective dessus, je m'attends pas, peut-être pas assez de docu pour ça. Mais voilà, ça m'a bien documenté, je trouvais ça intéressant, je trouvais ça, voilà, le message est passé, donc... pas grand chose à dire de plus, quoi.
Mais.
Buda, alors deux mots, Buda, oui.
Juste par rapport à Facebook, pour ce que tu disais, truc tout con. Facebook, en fait, tu as remarqué sur pas mal de sites web qu'il y avait un bouton qui permettait de partager automatiquement sur Facebook. Ouais. C'est con, mais à partir du moment où ce bouton s'affiche, Facebook récolte le fait que tu sois allé sur cette page. C'est un truc tout con, mais ça leur permet vraiment de récolter à mort de données là-dessus.
En fait, ils expliquent le système des métadonnées, c'est qu'en fait, suivre un truc en soi, c'est pas grand-chose, mais là où leur logiciel est puissant, c'est qu'en fait, il va recouper toutes les données qu'il prend. C'est-à-dire qu'il va prendre tes vacances sur Facebook, ça, c'est pas grand-chose, mais à côté, ils vont prendre ta carte de métro, ils vont prendre ta carte de crédit, ils vont prendre la puce de l'opérateur téléphonique, ils vont prendre ton Google Maps, ils vont prendre tous tes comptes Google, hein, parce que voilà.
Bah,
et à partir de toutes ces données, ils vont les recroiser entre elles, et même s'ils n'ont pas le contenu, même s'ils n'ont pas la teneur du contenu, ce qui n'est pas vrai parce qu'ils l'ont en fait, mais même sans ça, en recroisant ces données, ils savent énormément de choses sur toi.
Et même là, vous parlez du bouton partagé de Facebook, mais il ne faut pas oublier quelque chose, Google Analytics, c'est pour ça que donc je développe YouPod, et c'est pour ça que je n'utilise pas du tout Google Analytics, parce que éthiquement, c'est collecter les données des utilisateurs. C'est à partir du moment où tu installes Google Analytics sur ton site, c'est « ouais, c'est trop cool, c'est bien, ça me donne des stats, c'est sympa ». Bah ouais, mais du coup, Google, c'est « ouais, il sait ». Quel compte s'est connecté? Parce que, on va pas se mentir, c'est cool, ouais, tu te connectes pas forcément à ton compte Google et tout ça, et ils sont ultra casse-couilles sur leurs API pour sécuriser les utilisateurs, mais d'un autre côté, ils savent quels comptes sont connectés à quel navigateur, et donc quel utilisateur passe par quel site.
Ellie, à toi. Pardon.
Non, bah pas de problème, et puis j'ai pas énormément de choses à dire en plus de tout ce qui a déjà été dit. Je suis un peu dans le même cas de Thierry sur le fait sur les documentaires, je regarde pas énormément, donc je pourrais pas vraiment le juger sur les qualités intrinsèques, on va dire, même si je trouve qu'il y a, comme vous disiez, la caméra, je trouve que c'est vraiment bien utilisé, on dirait vraiment à travers l'aura qu'on est dans la salle avec eux et qu'on observe ce qui se passe, même des fois il fait des petits zooms je crois sur Snowden, c'est un peu moi c'était vraiment le regard que j'avais parce que c'était en fait moi ce qui m'intéressait beaucoup dans le documentaire au final c'était principalement le cœur du film que je trouve très fort, toute cette partie entretien avec Snowden où on le voit lui parler de ce qu'il a vu, de ce qu'il connaît et ses réactions par rapport à ce qu'il va révéler, à ce qu'il révèle et aux conséquences que ça a. Je trouve que c'est vraiment la force du film et du coup je trouve le début et la fin un peu en deçà parce que déjà à travers mes études j'étais pas mal au courant de tout ce que ça raconte et je suis en droit du numérique et j'ai fait une grosse partie de cours sur tout ce qui est protection des données etc. J'en avais bouffé tous ces éléments là donc ça m'apprenait pas grand chose mais toute la partie sur Snowden lui-même, l'homme, on va dire, derrière toutes ces révélations, est vraiment passionnante, je trouve, et elle le retranscrit très très bien, on est passionné par cette entrevue à l'hôtel. Et non, c'est un documentaire très intéressant, et sur, comme vous avez déjà tout dit, sur les lanceurs d'alerte, politiquement, etc. Et non, franchement, j'étais content de le voir, pour le coup, c'est un bon complément à plein de choses que je connaissais avant, et sur un sujet qui m'intéresse, mine de rien, pas mal. Donc c'était cool.
Et après tu parlais du regard aussi, on parle vraiment de l'affaire Snowden, mais moi je me souviens de la fin où il se retrouve à Berlin, où t'as aussi toutes les révélations qu'un autre lanceur d'alerte qui a été inspiré par Snowden, et tu vois, Snowden il est en mode « Oh putain, bordel !» Et tu vois qu'il est vraiment en mode « Quoi ?» Et ça passe énormément par le regard et le visage de la personne, et c'est quelque chose aussi, je parle toujours de cette force du documentaire en temps réel, mais qu'aucun acteur aurait pu refaire. C'est là...
J'ai fait une petite recherche là-dessus sur la révélation et en fait ça concernait les frappes de drones autorisées par Obama à l'époque. On voyait dans le documentaire où c'était noté POTUS, POTUS, et en fait c'est l'acronyme de President of the United States. Donc voilà. C'est du gros poisson.
Et là, il y avait des révélations sur l'écoute du portable d'Angela Merkel aussi.
Et ça montre
on
bien...
On va peut-être en finir.
Ouais.
Big Gaston, dernière phrase.
Ça montre bien la supériorité des US. Parce qu'ils ils font pression par rapport aux autres pays pour ne pas accueillir Snowden. Ils ont des... ou le truc qui se passait en Allemagne où ils ont eu un agent double dedans qui ont fait annuler les choses. Tu remarques que c'est aussi les USA. Et même dans d'autres trucs, par exemple... C'est pas l'histoire Snowden, mais dans le Bureau des légendes, pareil, tu remarques, dans beaucoup d'œuvres et dans plein de trucs, tu remarques la souveraineté américaine. Voilà, c'est ça le mot. La souveraineté américaine.
Il
y
a un gros truc là. On parlait de tempora chez les Anglais, bon, même s'ils le prêtent aux États-Unis. Là, il y a la lutte sur la 5G des Chinois aussi, qui est pas mal en matière d'espionnage, si vous êtes amateur. On pourrait parler de ça encore des jours entiers, mais il va falloir s'arrêter
un
peu.
Désolé.
J'ai promis d'arrêter, parce que je ne suis pas tout seul. Il y a quelqu'un en télétravail qui doit téléphoner après l'émission. Donc, il faut au moment qu'on arrête l'émission. On va passer à la suite. Enfin, on va finir l'émission, tout simplement. C'était un petit tour d'horizon, très documentaire, je trouve, entre le documentaire, le film réalisé par un réalisateur documentaire et celui qui ressemble un peu à un documentaire, on était très sur le doc. Alors, chers amis, on a pris des offres d'essai pour la plupart d'entre nous pour OCS. Celui qui était abonné avant, Marwan, n'est pas là. On a fait l'émission pour lui, il n'est pas là, on le salue. Coucou. Alors, Orange Cinéma Série, qui reste abonné, qui se désabonne? Thierry?
Alors moi, je suis désabonné pour l'instant, mais je suis pas contre l'idée d'y revenir prochainement, ne serait-ce que parce qu'ils ont HBO, hein, toujours pour la même raison. Et parce que, ouais, justement, HBO sortira d'autres trucs fantastiques d'ici peu de temps, je leur fais confiance là-dessus, donc je me dis qu'en soi, ça risque d'être un répertoire à série pas toujours renouvelé, toujours intéressant, quoi.
Ok. Yassa?
Bah écoute, moi, comme j'avais déjà grillé ma période d'essai l'année dernière, donc je voulais pas repayer. Donc j'ai regardé ces films d'une autre manière parce que
tu as donné une autre adresse mail.
Ah mais non, mais sauf que avec la carte de crédit ça passe pas.
Oui.
Et ouais.
Ça passe pas.
Ça serait trop simple sinon, évidemment. Bah c'est juste qu'en fait pour moi OCS ça reste quand même assez télé, et comme je suis complètement déconnectée de la télé depuis plusieurs années, ça m'attire juste pas en fait, vraiment pas.
Voilà. Alors attention, télé, c'est aussi Orange, Studio, hein, parce qu'on avait parlé que Orange était intéressé au cinéma, il y a des films, hein. C'est quand même ils ont mis des rondes dans The Artist.
Ah oui, non, mais je me rends bien compte que mon avis est très biaisé, hein. C'est juste mon ressenti direct de la plateforme, c'est tout.
Non, je regardais la liste des films d'Orange Studio, j'avais noté ceux qui ont fait plus d'un million d'entrées, puis d'autres plus récents. Dans ceux qui ont fait plus d'un million d'entrées, il y a The Artist, il y a Le Petit Prince, Star 80, Japloo, La Nouvelle Guerre des Boutons, Fatal, Welcome, Gainsbourg, Vie Héroïque. Ça fait envie, ça fait rêver. Dans les films plus récents, par contre, il y a Brutus contre César de Cairon, que Thierry doit attendre.
Coucou.
Sinon, il y a La Bonne Épouse qu'on avait bien aimé, il y a La Belle Époque qu'on avait bien aimé. Bon, il y a aussi Cuba Network qu'on a moins aimé. Il y a aussi Quand on crie au loup et Beaux-parents qu'on a beaucoup moins aimé. Bon, c'est vrai que pour ces films-là, je m'abonnerai pas peut-être. Oui.
Et il y a Brutus contre César de Cairon.
Big Gaston?
Personnellement, du coup, moi, honnêtement, j'ai même pas testé vraiment OCS au cœur du système, mais je suis passé par MyCanal, du coup. Donc, je pense que personnellement, je m'abonnerai pas parce que je suis pas très cinéphile. On va pas se mentir. J'aime bien regarder des films, mais je suis pas très cinéphile. Et il doit y avoir trois sagas que j'aime, et le reste, je m'en fous un peu. Et ces trois sagas, soit je les trouve en streaming, soit elles sont sur Disney Plus et sur Netflix, les deux services auxquels je suis abonné. Et enfin, il y a aussi Prime Video, mais voilà.
Voilà, voilà.
Les laisser pour compte Prime Video, c'est incroyable à chaque fois, quoi.
Mais ah non, mais la vidéo, les réunions 4 de Cyprien. Canal Plus, Disney, Netflix. Mais non, je pense pas que je resterai abonné parce que les films qui m'intéressent, c'est souvent, tu disais que OCS mettent des ronds dans le cinéma, mais t'as aussi Canal qui mettent des ronds dans le cinéma. Donc les films récents qui m'intéressent.
C'est le principal financeur du cinéma français, ça reste Canal quand même. Faut pas se leurrer.
Ouais, donc, ouais. Voilà, je pense pas.
D'ailleurs, d'ailleurs, petite news, là, au moment qu'on enregistre, on est mercredi, le président vient de parler. Oh, notre grand président. De ce qu'ils veulent faire pour la culture, il a annoncé qu'il voulait que d'ici le 1er janvier 2021, les plateformes financent la création française. Bon, on n'a pas les
détails. Ouais, ce serait bien qu'il
ait bonne chance. Il n'arrive même pas à leur faire payer des taxes et tu veux qu'ils financent des trucs, laisse tomber.
Bah, il a déclaré qu'il allait avoir des primes pour les intermittents ou pas?
Une année blanche, il a déclaré.
Oh putain, sinon j'allais dire qu'il ferme sa gueule. Ah, il a enfin dit un truc intelligent, il aide ceux qui en ont besoin.
Bah, en vrai, moi je me dis que si il trouve un moyen de faire sauter la chronologie des médias en obligeant
non,
les plateformes...
Non, ça c'est pas au programme,
mais,
ça, non.
Enfin, non,
ouais,
pas
la chronologie
sauter,
des médias...
Pas faire sauter, mais l'adoucir pour les plateformes qui soutiennent le cinéma français, je pense que...
C'est ce qui se passe déjà, c'est le cas de Canal+.
Et d'OCS.
Ouais, mais je sais pas comment dire, mais s'il trouve un arrangement avec les plateformes genre Netflix et tout ça, en leur permettant d'avoir une facilité comme Canal. Je sais pas comment ça fonctionne la chronologie des médias.
En gros, ce qui se passe, c'est que quand tu finances, t'as droit de passer en payant les films plus tôt. Voilà.
Mais ça peut être pas mal. S'il arrive à trouver un moyen d'obliger les plateformes, mais qu'on sort de cette idée kafkaïenne de Netflix qui produit un film, mais Cannes le casse pour qu'il le passe en salle, mais du coup ils pourront l'avoir que 3 ans plus tard. Si on sort de cette idée kafkaïenne là, je trouverais que du positif.
Non, mais la chronologie des médias, pour faire simple, c'est ce qui nous empêche d'avoir tous les Star Wars sur Disney+, alors que c'est Disney qui les a produits.
Oui, voilà,
c'est un peu plus complexe que ça, hein, franchement.
Voilà, c'est extrêmement résumé. Et la chronologie des médias, c'est pas un ennemi, hein.
Non, mais c'est juste que j'ai voulu me faire un marathon Star Wars il y a pas longtemps et j'ai fait.
Mais t'as vraiment envie de voir les derniers Star Wars?
Oui, tu peux t'arrêter aussi. Alors, ça.
C'est ça.
Même si la dernière trilogie est une cuillère.
Grosse.
Non, c'est une cuillère. Ceux qui ont regardé Matrix savent de quoi je parle. Mais.
Une cuillère à l'envers, du coup.
Oui. Mais, tout simplement, si tu veux te faire un marathon complet Star Wars,
bah, tu regardes les bons films.
C'est par la nouvelle trilogie et par Solo.
Ah non, non, non. Ah. Moi, je l'ai fait il y a pas longtemps, crois-moi, c'était pas un bon choix. T'as aussi le droit d'en dire certains. Là, je suis en train de faire pareil avec X-Men, il faut pas faire ça.
Non, il y a des moments où il faut savoir s'arrêter, les gars. Hein.
Non, non, là, je crois qu'on dérive là. Ça y est, hop, on n'est pas là pour parler Star Wars non plus. Non, non. On arrête tout de suite. Ellie, ton avis sur la plateforme. Allez.
Moi, je pense que là, je vais pas rester abonné sur le coup, mais je vais sûrement y revenir, genre cet été, je pense, quand j'aurai un peu plus de temps, pour me faire des rétrospectives de réalisateurs. Genre là, Lars von Trier, ça dure encore un petit moment. Et c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, mais j'ai pas vu tous les films, par exemple, donc je pense que je vais essayer d'en profiter. Et voir aussi s'il y a pas une ou deux séries, parce que y a quand même un catalogue assez vaste là-dessus. Donc là, pour le dans le cours à court terme, je pense pas, mais sur le moyen terme, très probable que j'y revienne.
Ellie, qui aime beaucoup Lars von Trier, c'est une grande explication sur pourquoi elle rigole devant des gens qui donnent des calaches à des gosses.
C'est pas faux. C'est absolument pas faux. Hein.
Tout s'explique. Non, mais là, aussi, il y a un cycle Quentin Dupieux en ce moment, là, sur OCS. Je vais enfin pouvoir rattraper Rubber, enfin.
Ouais, il y a non-film ou pas?
Non, je crois qu'il y a Wrong et Wrong.
Il est sur YouTube, je crois, non-film. Enfin, de mémoire, Dupieux
l'avait... Ah, non-film et Steak.
Dupieux l'avait mis sur sa chaîne YouTube, un truc comme ça, je crois, non-film, il y a quelques temps. Je sais pas si ça y est encore. Et Steak est sur Netflix, de mémoire.
Ah, bien.
Bien. Bon, moi, pour ma part, j'ai été abonné, parce que je squattais le MyCanal de quelqu'un qui s'est désabonné, du coup, je l'ai plus. Voilà, voilà. Du coup, je cherche quelqu'un avec une carte de moins de 25 pour choper une offre canal pour les moins de 25 avec l'OCS dedans. Bon, bref, c'est une magouille sans nom. Donc, pour l'instant, j'ai pas OCS. Voilà. Bien. C'est l'heure des recos. Enfin.
Yeah. Bon, Star Wars nouvelle trilogie, du coup.
Non.
C'est bon, Yaza, voilà. Tu peux te déconnecter.
Je rappelle la règle du jeu. On va relativement vite. On est bref. Une reco max sur la plateforme et ou une reco ailleurs. Qui peut être un livre, un jeu, un film, tout ce que vous voulez. Ça commence maintenant, on commence par les invités. T'es un Buddha, voilà.
Alors, sur la plateforme, la série Watchmen,
oh, oui.
Qui est une suite de la BD. Et en dehors de la plateforme, le jeu vidéo Orwell et sa suite, qui sont une très bonne mise en pratique, justement, de tout cet espionnage de vos données.
À préciser, pour Watchmen, il est recommandé de lire le comics avant et non pas voir le film. Hein, voilà.
Tu peux en soi, mais...
Oui, non, mais je veux dire, c'est par rapport au scénar.
Ah oui, oui. Oui, c'est par rapport à la fin, en fait. La conclusion, oui.
Dis, Gaston.
Alors, sur la plateforme, je vais recommander Edmond, parce que j'aime beaucoup ce film et je trouve que c'est un très bon film.
Vous pouvez d'ailleurs écouter l'épisode qu'on a fait dessus, ça confirme tout ce qu'il est en train de dire.
Et hors plateforme, moi, je vais vous conseiller aussi un jeu vidéo. Je vais vous conseiller Hacknet, qui est un excellent jeu indépendant qui coûte une quinzaine d'euros. Et en fait, ça met en pratique l'idée de s'infiltrer dans le PC de quelqu'un à l'aide de commandes Linux. Donc, vous allez apprendre les bases de Linux grâce à ça. Enfin, un petit peu imagé, il y a certaines commandes. Bref. Mais c'est un bon jeu, il coûte pas cher, et si ça vous intéresse un minimum, comment ça marche les proxys et tout ça, c'est assez cool.
Et les OST sont composés par un français.
Oh, chouette. Il y a ça.
Alors, moi, pour la plateforme, j'ai pas de reco, parce que je n'ai pas été sur la plateforme cette semaine.
Oh.
Du coup, j'en ai profité... Ah, sacrilège. Du coup, j'en ai profité pour me re-binger les 6 premières saisons de Doctor Who, voilà, parce que ça me manquait, tout simplement. Donc, je vais enchaîner la 7e tout à l'heure. Si quelqu'un veut m'accompagner.
Quand tu feras les six premières de l'original, je te suis.
Ah, mais grave! Ah, mais ouais, quand tu veux. Vas-y.
Non, à partir de la seconde, par contre. La première, je l'ai vue, non, je veux pas.
Bah, en fait, moi, je me suis pas cassé la tête les classiques où je suis allée voir le 4e, le 5e et quelques épisodes du deuxième Docteur. Donc voilà, j'ai un petit peu chopé mes favoris là-dedans.
Ok, Ellie.
Alors moi, sur la plateforme, je vais recommander un film d'Aki Kaurismäki, L'Homme sans passé. Donc c'est un film finlandais.
Très bien.
Vite fait pour présenter, c'est en gros un mec qui se balade et qui se fait tabasser par une bande de jeunes et il devient amnésique. Et il va être recueilli par des sans-abri qui vont l'aider à se reconstruire socialement et à essayer de faire ressortir ses mémoires. Et il va rencontrer une femme au milieu de tout ça. Et c'est très très beau, très touchant, comme tout le cinéma d'Aki Kaurismäki. On s'intéresse aux petites gens et c'est très humain. Et voilà. Donc c'est sur la plateforme. Et sinon, à part ça, je vais faire ma reco casse-couille et je vais recommander La Belle Noiseuse de Jacques Rivette. Un film de 4 heures qui est sur Arte TV ou sur Mubi, je crois. où c'est Michel Piccoli qui peint Emmanuel Béart, et c'est magnifique, c'est sur la création de l'art, les tourments de l'artiste, ça me prend au trip, c'est merveilleux. Donc voilà.
Thierry ?
Ouais, alors bah du coup moi je me suis très très vite désintéressé de la plateforme, donc j'ai pas regardé autre chose, vraiment rien. Par contre, là, j'ai regardé tout à l'heure, en fait, dans le catalogue classique, en essayant de trouver quelque chose à recommander. Bon, c'est vrai que dans la plupart de ce que j'aime beaucoup, c'est des choses auxquelles on pense assez facilement. Mais du coup, je vais juste citer des noms de films, j'en citais 4. Forcément, quand on parle de cinéma classique, vous en avez forcément entendu parler, mais je me dis que si jamais vous les avez pas vus, et que vous saviez pas que c'était là-dessus, et que vous avez la plateforme à porter, bah, pensez-y. Il y a Suspiria d'Argento, qui est quand même fantastique. Il y a Boulevard du Clépuscule de Billy Wilder, qui est un film génial. Il y a L'homme qui tue à Liberty Valance, dans un genre un peu moins connu, et il y a du Preminger, il y a Autopsie d'un meurtre. Voilà. Pas besoin de dire de quoi ça parle, regardez-les, vous en sortirez grandi.
Tu es très beau, Thierry.
Et en reco hors plateforme, alors initialement, je voulais parler de Deux Sœurs de Kim Ji-woon, mais n'ayant pas compris assez le film, je vais pas me risquer à en parler, mais super expérience, et ça reste en Corée, donc matez-le. Mais par contre, je vais parler rapidement de Brazil de Terry Gilliam, donc film très connu, évidemment, mais qui au final fait un peu de raccord avec tout ce qu'on a vu. En plus, on a parlé d'Orwell dans les jeux vidéo, on a parlé de Snowden, donc on parle de 1984, on parle de tout ça, et Brazil, c'est une adaptation indirecte de tout ça. Sous un joug un peu plus comique, un peu plus fantasmé, avec une histoire d'amour, voilà, sur un amour impossible entre un homme qui va tenter de séduire une femme, mais la société lui montre clairement que plus il va essayer d'être un homme libre, plus elle va le castrer et le lobotomiser. Et c'est à la fois très drôle, à la fois c'est un univers auquel on croit, et à la fois ça glace le sang. Et ce qui est important, c'est de le voir à différents moments de son existence, puisque chaque fois qu'on le voit, on en a des nouvelles lectures, on voit de plus de détails, et on se rend compte d'à quel point c'est au final de plus en plus actuel.
Ok. Bon, je vois qu'il y a la Cité de la Peur sur OCS, donc c'est bon, je reste abonné.
Une comédie familiale.
Mais enfin, la Cité de la Peur, tu fermes les yeux, tu le récites. Hein.
Oui, en même temps, a-t-on besoin de ça? Ouais, non, il y a du Tarantino aussi, il y a du Pulp Fiction, Reservoir Dogs, très très bien. Et le Magicien d'Oz aussi en classique, ce n'est pas Tarantino, mais oui. Oh, il y a le Chacal aussi, tiens. Ouais, bon bref, il y a à boire
et
à manger.
On en a déjà parlé, arrête, pas le Chacal. tu peux pas sortir aussi. Ça comme ça sans t'arrêter et dire non, je rigole, ne regardez pas le Chacal. Un petit peu d'honnêteté et de bienveillance.
C'est compris, je le dénonçais sur notre plateforme, je dénonce Price ici aussi. Donc pour ça, pour dire que sur OCS, il y a du bon et du un peu moins bon. Voilà. Non, je viens de voir qu'il y a Alpha The Right to Kill que j'ai raté en salle et que je voulais rattraper, donc je vais le regarder avant de me désabonner. Sinon, voilà, et sinon pour ma reco, ben alors moi ça sera une reco hors film, pour une fois, c'est une reco jeu vidéo. Voilà, ça change. Petit jeu sur navigateur, c'est sautecanton.fr. Voilà, c'est un jeu qui a un petit succès là pendant le confinement. Ça a été développé par Terry Lair et Kokomo. Alors Terry Lair, c'est un podcasteur qui faisait notamment la veille des podcasts et puis d'autres programmes et qui programme 2-3 trucs sur le podcast aussi. Donc on lui passe un coucou.
Coucou.
Et c'est un jeu assez simple. Hein. C'est en gros, on part d'un petit village en France, n'importe quel ou complètement au hasard, et on doit sauter de village en village. À partir des villages limitrophes, pour arriver à une ville de 50 000 habitants. Voilà. Et donc, on se balade dans la France comme ça, et on découvre tous les petits patelins. On peut traverser le territoire sans croiser une grosse ville. C'est merveilleux. Voilà. Bien, c'est la fin de l'émission. Petit coup d'auto-promo. Puis Gaston Budakim, je le disais, vous avez une myriade d'émissions. Où peut-on vous retrouver une fois que l'épisode sera terminé?
Bon bah j'y vais. Moi, en solo, j'anime trois podcasts. J'anime Quoi, qui est un podcast de micro-trottoir humoristique, où je pose une question totalement absurde aux gens. Ça fait 3 mois que j'ai pas fait d'épisode parce que confinement et la flemme. J'anime Les Manettes de Proust, qui est un podcast où j'invite des gens à me parler des jeux de leur enfance, où Thomas était venu pour le premier épisode, pour parler de
Shadow of the Colossus.
Ouais. Alors pareil, depuis 3 mois en pause, mais il y a un épisode qui sort au moment où on enregistre. J'ai repris le montage. Et j'anime un podcast qui s'appelle Script, où je parle de langage de prog et où je vais parler un peu plus maintenant en général de technologies liées à l'informatique. Par exemple, j'ai prévu comme épisode, ça va pas forcément vous parler, mais de parler des JSON Web Token et comment fonctionnent l'authentification à deux facteurs. Et en dehors des podcasts, je suis développeur d'un service gratuit soutenu par Podchose qui s'appelle YouPod, qui permet de convertir automatiquement vos podcasts en vidéo pour YouTube par exemple, et qui est totalement gratuit.
Si un jour on va sur YouTube, il y a des chances qu'on utilise
ça. C'est totalement gratuit, ça collecte pas vos données perso. Par flip comme les pirates, je supprime tout dès que j'en ai plus besoin. Voilà. Et du coup, Buda, je te laisse présenter ce qu'on fait à deux. Hein.
Et donc, à côté, on a trois podcasts qui ont fusionné, trois podcasts séparés qui ont fusionné, le Point Games, le Point Games Live et le React FM, parce qu'en fait le concept était toujours plus ou moins le même. Point Games,
alors, c'est React avec un T à la fin, hein.
Ouais. React.
Parce que React FM, c'est autre chose.
Oui. Alors, React FM, c'était un podcast au rythme de sortie particulièrement irrégulier où, en fait, dès qu'il y avait un gros truc dans l'actu jeu vidéo qu'il fallait qu'on en parle rapidement, ben, on le faisait. Où, généralement, j'avais généralement une forte tendance à gueuler pendant que Bigaston était en mode « Non, mais tu sais, il y a ça aussi qui est… » Ouais, non, en fait, c'est pas des fandables, c'est des connards. Je repense surtout à l'épisode sur un jeu où tu incarnes un sociopathe qui va violer sa famille.
Ça va plaire à Ellie, ça.
Le Point Games, qui est un podcast mensuel presque régulier. On n'a quasiment jamais eu de retard.
Sauf...
Ou d'épisodes oubliés. Où, en fait, on réagissait...
C'est pas un vrai podcast, ça.
Voilà, où on faisait un condensé des actus vidéoludiques du mois, nos jeux du moment et des dossiers. Et enfin, les Point Games Live, qui sont un podcast qui sont publiés sur le flux RSS des Point Games, qui est un podcast hebdomadaire où nous avons des invités et où nous, en fait, c'est plus questions-réponses et débats autour de divers sujets autour du jeu vidéo avec nos invités. Et le dernier épisode était d'ailleurs fusionné avec les Point Games classiques parce que ça faisait un mois qu'on n'avait pas fait de Point Games. Et vu qu'on n'avait pas d'invités, on a fait on fait un épisode FAQ. Allez. Et enfin, en autre podcast à part, podcast hebdomadaire aussi, les Généales au jeu, où nous racontons l'histoire de différents genres de jeux à travers les jeux qui ont marqué le genre. Une saison de 10 épisodes, c'est un genre, et donc là, on a bientôt fini la saison 1 et on va bientôt attaquer la saison 2.
Youhou.
Et la saison 2, je vais souffrir.
Ouais, c'est... bon, voilà. C'était notre auto-promo. C'est à peu près tout qu'on a comme podcast.
C'est déjà pas mal. Merci, Buda. Merci, Bigaston, d'être passé dans l'émission.
De rien, ça fait plaisir.
Merci à vous.
Merci également, Yassa.
Pour une fois que je peux le dire, merci les garçons.
Merci Ellie.
Merci.
Merci Thierry.
Merci.
Et merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. C'était Certains l'aiment au chaud. La version confinée de Certains l'aiment à chaud. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle plateforme, une plateforme de cinéphiles.
Je suis heureux.
Oui, Ellie est heureux. On va parler de la cinéthèque, la cinémathèque des réalisateurs.
Cinelli.
Oh oui. Enfin, tu l'attends depuis tellement longtemps, celle-là.
Ah bah là, je suis trop heureux, vraiment. Ça va être ma meilleure émission de ma vie, là.
Il va se donner à fond.
Ah, attends, en vrai, je dis ça, on n'a pas encore vu des films. Hein. Faut que tu
ouais, demain, ils vont nous publier que Salto sort ce week-end. Et là, c'est fini.
Non, mais peut-être que ça sera la... Ouais, mais si c'est Fabien Toniente qui nous fait la sélection ce mois-ci...
On va se régaler.
En attendant, la semaine prochaine, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, à CLAC Podcast, CLAAC Podcast. Et également, réécouter cet épisode ou les épisodes suivants, ou bien vous abonner pour écouter le prochain épisode sur votre application de podcast préférée, Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, Podcast Addict, Pocket Cast, Spotify, Deezer, même PodCloud aussi, on est partout. Voilà, vous avez une application de podcast, on est dedans. Abonnez-vous, tout simplement. À la semaine prochaine. Bisous, bisous, bisous.
Bisous,
bisous, bisous. Bisous, bisous.
Alors, comme j'ai prévenu Thierry, on va parler de la saveur des ramen. Je vous interdis de faire la vanne, les saveurs du poulet au yassa.
Oh, sérieusement. Peut-être tu m'en restes, je me réduis et tout, et t'oses la faire, quoi. En fait, c'était juste pour la faire avant. Bravo, bravo.
Parce qu'on sait que tu l'aurais faite, Thierry, tu l'as fait dès que t'as l'occasion.
Non, mais arrête, tu déconnes. Yassa, honnêtement, ça fait combien de temps que je t'ai pas fait cette blague?
Ah oh bah je sais plus.
Voilà, bon, alors, tu vois.
De toute façon, on sait tous que le monde a été créé par un monstre spaghetti volant beurré et qu'à la fin de chaque prière, il faut gueuler « Ramen ».
Non.
Bon bah je gueulerai ça ce soir quand je boufferai.
Alors là, si vous voulez mimer la
bande... Miam, miam, miam.
Mmh. Oh, mmh. Oh, c'est délicieux.
Oh,
c'est
délicieux.
Oh, non, la mano.
Date bayo.
Oh, bakute.
Bakute.
Sugoi. Voilà, c'est bon, on a fait le truc raciste, on parle de qu'est-ce qu'on a fait au bon moment.
Ah,
voilà.
Ah merde, y a mon son qui s'est...
Voilà, et après sa critique, qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu ? Bon, alors... Cela dit, on peut se rembaucher pour écrire le 3. Hein.
Ah oui, c'est bon, c'est bon.
Ah ben voilà, avec des Singapouriens, du coup.
Vous voulez faire la bande aux exfiltrés aussi ou...
Oh, ma femme a disparu, mais où est-ce qu'elle est partie ?
Au secours ! On m'enlève !
Bah, j'ai... Va poser des bombes, va poser des bombes.
Shoot le Playmobil, pardon.
Tu veux un Kalachnikov ?
Non, mais finalement, ça me plaît plus, j'ai envie de revenir. Allez, laissez-moi revenir.
Putain, mais le résumé bourré, quoi. À l'aide.
Tiens, tombe de la moto.
Non, mais... c'est le mec qui dort.
C'était vraiment le brainstorming du film, ça. Hein. C'est...
Oui.
Il a vraiment... Tu sais, c'est le mec... Il regarde 5 minutes, il s'endort un quart d'heure. Il a que 3 ou 4 éléments du film.
C'est merveilleux, je pense qu'on va la garder, c'est bien. Le fameux va poser des bombes, c'est merveilleux. On est sur. J'ai l'impression de revoir la ceinture de maintien de qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu.
C'est
Wow.